on va commencer Bezrat Hashem, notre quatrième cours sur le thème de la colère. Seulement aujourd'hui, on ne va pas faire le cours sur le texte. Aujourd'hui, on va faire du hors-piste. C'est-à-dire qu'on va essayer de...
C'est le complément que tu voulais nous faire la semaine
oui,
dernière.
Oui, c'est le complément, exactement. La semaine dernière, je vous ai dit que j'allais chercher des compléments.
C'est bien de nous rappeler l'année.
Donc je suis parti un peu glaner un peu dans plusieurs textes. On va essayer de développer tout ça ensemble. Donc, à quelle conclusion on est arrivé pour l'instant avec le Tania? On est arrivé à la conclusion que quand une chose, quand un malheur nous arrive, quand une personne nous a causé un tort, il ne faut pas s'énerver contre lui, parce que, en vérité, quand on s'énerve, c'est comme si qu'on est en train de faire, on a dit,
Avodazara.
Ça veut dire qu'en vérité, on montre qu'on n'est pas d'accord avec ce que Kadosh Baruch Hu a choisi. Alors maintenant, à ce propos, oui.
J'étais absent, donc forcément, j'ai tort. Je voulais juste savoir, mais justement, c'est-à-dire si tu contiens ta colère par rapport à quelqu'un, et que tu lui en veux, qu'est-ce qu'il est préconisé de faire?
Non, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre avéra qui te demande de ne pas lui en vouloir. Là, on ne parle pas maintenant de ça. Là, on parle de la colère. En vérité, c'est le plus dur, ça. C'est le plus dur. Parce que le problème, c'est que quand on s'énerve, après, on fait des choses qu'on regrette, qu'on ne maîtrise plus. Comment on va essayer de voir? Alors, je vais vous lire d'abord la Gemara. Il y a deux Gemarot qui en parlent, même trois Gemarot. Une Gemara dans le traité Nedarim, une Gemara dans le traité Kiddushin, une Gemara dans le traité Shabbat.
Kiddushin.
Ouais,
j'ai pas...
Bon, je vais vous donner quelques références de ces Gemarot. Après, on va développer dans Maïmonide, et après, on va développer dans différentes sources racidiques sur ça. Rabbi Yonatan dit dans la Gemara Nedarim, il dit « Kol akoes, kol mine geinom sholtimbo. » Celui qui s'énerve, c'est le Géinom qui prend le contrôle de sa personne.
Le Géinom.
Je répète, celui qui s'énerve, imaginons que je m'énerve, je préserve, te dire Rabbi Yonatan dans la Gemara Nedarim, cette personne-là, c'est le Géinom qui prend le contrôle de sa personne. Explique le Rosh, Rabbeinu Asher, le commentaire du Rabbeinu Asher sur cette Gemara. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, quand les gens ils entendent le mot Géinom, ils pensent que Géinom, ça veut dire Géinom en haut. Ils disent, bon, ça va, je m'énerve, ça, je vais payer cher en haut, mais bon, en haut, on verra. Ici, d'ici là. Oui. Dieu est grand,
d'accord.
En vérité, explique le Roche Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, c'est le père de celui qui a composé le Shulchan Aruch, donc on se base en grande partie sur lui. Et qu'est-ce qu'il dit, le Roche? Le Roche, il te dit qu'en vérité, tu dois savoir que quand on te parle de Géinom, c'est pas spécialement le Géinom en haut. C'est encore plus que ça, c'est encore plus grave, c'est le Géinom en bas. Pourquoi le Géinom en bas, dit la Gemara Nedarim là-bas? La Gemara là-bas dit, c'est le Géinom en bas pour celui qui s'énerve, parce que d'abord, il se fait des ennemis partout. Une personne qui s'énerve, il se fait des ennemis partout. Personne, ça veut dire, dès qu'il arrive, on se dit, ah, ça y est, celui-là encore, il va s'énerver. Alors, ça peut être un père par rapport à une... Ça veut dire que, pourtant, ça démarre de rien du tout. Ça démarre de... Je veux dire, un père par rapport à des enfants, une femme par rapport à son mari, un mari par rapport à sa femme. Dès que quelqu'un est énervé, on se dit, ah, ça y est, va commencer celui-là encore, et ça y est, c'est fini, ça pose tout le jeu. Donc, ça amène le guéinom dans un couple, ça amène le guéinom dans des relations. Ça, c'est ce que le Rabbeinu Asher t'explique. À part ça, j'en ai parlé brièvement Shabbat aussi. Le fait, une personne qui est nerveuse, non seulement que ça lui cause du tort d'abord en haut, ça lui cause du tort en bas parce qu'il a du mal à avoir des relations sociales, mais explique le Roche, ça lui cause également du tort à sa propre personne dans le fait qu'il n'arrive pas à digérer. Donc une personne qui n'arrive pas à digérer, automatiquement, il attrape toutes les maladies. Parce qu'une personne qui mange correctement et qui mange de manière équilibrée, les maladies ont beaucoup plus de mal à l'atteindre. Mais une personne qui a du mal à digérer, que son corps a du mal donc à être alimenté, les maladies l'attrapent beaucoup plus facilement.
Ouais,
ça veut dire que pourtant ça démarrait de rien du tout. Ça démarrait d'une crise de nerfs. On voit ici comment t'explique le Roche, comme une crise de nerfs, ça peut t'amener toutes les maladies du monde, Dieu préserve, ça peut t'empêcher tes relations sociales et ça peut t'amener le guéinom en haut. Alors quand on voit tout ça, on se dit bon, est-ce que finalement la crise de nerfs, elle valait le coup? Mais c'est mamage comme ça.
Pour quelqu'un qui s'énerve tout le temps, ça.
Non. Même si une personne qui s'énerve occasionnellement, on le sait. Bien sûr, quand on s'énerve, on n'arrive pas à digérer.
Bah, alors il explique là-bas.
Le Roche dit comme ça. Il dit, c'est vrai qu'on n'arrive pas à digérer. Il dit, ça veut dire que les membres qui sont censés normalement tourner pour trier la nourriture ne fonctionnent pas comme il faut. Donc automatiquement, toute la nourriture descend vers le bas du corps. On a l'estomac qui est noué. C'est dommage comme... D'où l'expression, l'estomac noué. Exactement.
Des fois, t'as pas envie de manger, tellement que t'es en colère, ça passe pas.
Après, on doit manger, parce qu'il faut manger. Or, on sait que ne pas manger, équilibré, ou ne pas manger du tout, ou ne pas réussir à manger, c'est la source de toutes les maladies. C'est à cause de quoi? À cause des nerfs. D'accord? Non, t'as raison, on dit bien avoir l'estomac noué. D'accord ? Donc mamash, ça bloque. Donc ça, c'est ce qu'il dit le Roche. D'ailleurs, Bar Kappara, là-bas, il dit dans la Gemara, il dit que celui qui s'énerve, il croit qu'il a obtenu quelque chose, il croit que ça y est, je me suis énervé, je leur ai montré. En vérité, te dit Bar Kappara, il te dit celui qui s'est énervé, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné que la colère. D'accord ? Ça, je l'ai dit Shabbat aussi. Maintenant, on va développer.
C'est-à-dire
qu'il n'a rien gagné du tout.
Non, mais ça, c'est valable. Physiologiquement, c'est valable pas seulement pour les juifs.
Ah, bien sûr, pour tout le monde, c'est valable.
Pour tout le monde.
Ah non, ça n'a rien à voir avec les juifs.
Non, mais ce que tu disais, que comme s'il a mis Abodazara, si quelqu'un a déjà fait Abodazara.
Je ne vais pas parler d'Abodazara encore. Non, non. Là, dans la Gemara Nedarim, on ne parle pas d'Abodazara. Dans la Gemara Nedarim, on dit celui qui s'énerve, ça lui amène toutes sortes de Gehinnom. On a dit, le Roche a expliqué que le Gehinnom, c'est même pas en haut, le Gehinnom, c'est même en bas. Donc ça n'a rien à voir avec Abodazara.
C'est une notion pour tout le monde.
Ça, c'est une notion universelle.
Pour l'humanité. D'accord.
Tout le monde, pour toute l'humanité. Après, vient une deuxième Gemara dans le traité Shabbat. Et c'est cette Gemara qui est plus spécifique. Qui dit, celui qui s'énerve, c'est comme si il faisait Abodazara. C'est-à-dire, dans la Gemara du traité Nedarim, on te parle de manière plus générale. Tu te dis, bon, celui qui s'énerve, celui qui met le Gehinnom dans sa vie, ça n'a rien à voir avec Abodazara. C'est un message universel. Mais là, dans la Gemara du traité Shabbat, la Gemara sur laquelle on s'est arrêté dans le chapitre 25, elle te parle plus de la notion de l'aspect juif de la colère. Et là, effectivement, dans l'aspect juif de la colère, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il faisait... Celui qui s'énerve, c'est comme si qu'il faisait Avodah Zarah. Alors, vous savez, j'ai ici devant moi un livre qui s'appelle L'Écouté d'Ibourim. L'Écouté d'Ibourim, c'est un recueil de commentaires du rabbi précédent. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, comment c'était compilé ? C'est pas comme les sirotes du rabbi où tu as des longs commentaires avec plusieurs questions et une réponse ou plusieurs réponses. C'est des bribes d'informations que les chassidim ont retranscrit, ou des fois même le rabbi retranscrivait. Mais des fois, ça dure une ou deux pages. Mais on a des paires dans des livres comme ça. C'est-à-dire que moi, j'en ai déjà quatre comme ça à la maison. Et dans chaque page, on peut avoir trois, quatre sujets. Mais c'est très concentré et très intéressant. Alors, donc là, le texte que je vais vous lire, alors si je le lis, c'est parce que dans une des lettres du rabbi qui parle de la colère, hein, j'ai vu qu'il renvoie vers ce texte. Donc c'est là que je suis parti chercher, et j'ai trouvé ça. Et donc, c'était un Fabringen du rabbi précédent, le 19 qui se lève, Tavresh Tzadik Gimel. Tavresh Tzadik Gimel, ça veut dire... Tavresh Tzadik Gimel, ça veut dire 5693. Quand on est en 5772, donc ça fait à peu près 80 ans. D'accord ? Un Fabringen, ça fait à peu près 80 ans à New York. Non, pardon, à Riga. D'accord ? Donc Riga, c'est en Lettonie. Alors, Fabringen, j'ai eu précédent. Il dit comme ça. D'abord, il raconte l'histoire de Yutet qui se lève. Ça, on l'avait déjà raconté. L'histoire de la libération de Morazaken. Il rajoute encore des détails, mais bon, ça, c'est pas notre but aujourd'hui. Mais, dans ce Fabringen, il parle de son oncle. Son oncle, il s'appelait Rabbi Nahum. L'oncle du rabbi précédent.
Nahum.
Dans ce Fabringen, il parle de son oncle. Il n'était pas un rabbi, hein. C'était son oncle. Et il raconte que son oncle, Rabbi Nahum, lui a raconté la majeure partie des histoires qu'il connaît. Puisqu'apparemment, son père était très occupé avec... il devait s'occuper donc du Ham Israël, donc il avait pas le temps de s'occuper de son fils, je veux dire, au jour le jour, de passer toute la journée pour son fils. Donc il a payé un maître pour son fils, d'accord ? Et en partie, c'était ce Rabbi Nahum qui s'occupait de lui raconter l'histoire juive et l'histoire de Chassidim. Alors, donc il parle donc de son oncle, Rabbi Nahum, et donc il dit que son oncle, Rabbi Nahum, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps, et que jusqu'à l'âge de 80 ans, il s'assurait d'aller chaque année chez le rabbi, même si des fois ça lui coûtait beaucoup d'efforts. Bon, il raconte tout ça. Quel rapport avec la colère ? Écoutez bien. Parce que dans sa Fabringen, il dit que mon oncle, Rabbi Nahum, m'a raconté une dracha du Admour Hazaken, parce que ce Rabbi Nahum avait eu la chance de connaître les chassidim du Admour Hazaken. Parce que ça faisait quand même 200 ans en arrière. Mais il avait l'occasion de connaître les chassidim du Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, ça fait 200 ans. Donc si on compte, le Fabringen était à 80 ans, il parle de son grand-oncle, enfin de son oncle, qui lui avait connu des élèves d'Admour Hazaken, c'est jouable. Et donc il raconte, il dit que son oncle lui a raconté, il lui a dit que les chassidim m'ont dit qu'il y avait un discours du Admour Hazaken qui les a marqués et qui a changé leur vie.
C'est
comme ça il dit. Mamash, ce qui témoigne, il dit que ce discours-là, ça a changé leur vie, ça leur a fait un nouveau cœur, et ça a rapproché des milliers de personnes à Avodat Hashem.
Ouais.
C'est quoi ce discours ?
Applique-toi, mais...
Alors.
Qu'on en profite.
Alors, c'est un yiddish, hein. Mais bon, je vous traduis.
Non, mais ça va, hein, depuis le temps, on comprend.
Alors, ça, ça remonte à combien d'années?
200.
Oui, donc c'est jouable.
Ah, c'est jouable. Ouais. D'accord. Lui, le rabbi précédent à cette époque-là, quand il a raconté l'histoire à 80 ans, il avait déjà lui-même 70.
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc tu remontes, etc. Non, c'est jouable.
C'est jeune. En transmission, oui.
En transmission. Donc il raconte comme ça. Je vais vous lire, hein, je vais essayer de vous traduire directement. Donc, bien sûr, comme c'est raconté dans le cadre d'une histoire, c'est très court. Mais on va essayer de trouver, dans ces paroles qui sont très courtes, de trouver ce que la Gemara Zaken voulait dire. Et en même temps, on étudiera le texte de Rambam. Parce que je pense que pour bien comprendre ça, il faut étudier le texte de Rambam qui va expliquer. Alors regardez. Donc le discours d'Admour Hazaken que Rabbi Nachum a raconté au Rabbi précédent. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est mamash, c'est quelque chose qui a été transmis de maître en élève. Et là, on est au troisième. Il dit « Kol ha-kohes, kol mine geinam sholtinbo ». Il reprend la Gemara que je viens de vous lire, dans notre Tanedarim. Ah oui, c'est pour ça que je vous parle de ça. Il dit que celui qui s'énerve, toutes sortes de Geinom, Sholtimbo, le maîtrise. Kepiru Charoche, tout de suite il amène le commentaire du Roche. Demitor Kaasso, Balide Avera. Alors déjà, la manière comment il ramène le Roche, il nous apprend quelque chose. Regardez. Il dit comment le Roche explique. En fait, le Roche ne dit pas exactement ces mots, mais lui, comment il explique, il dit comme ça. Il dit comme ça. Il dit pourquoi, quand une personne s'énerve, ça lui amène le Geinom? Parce que la colère amène au Averot. Quand une personne s'énerve,
bah oui, c'est logique.
D'accord. Naturellement, et c'est vrai, on pourrait faire un test. Quand une personne s'énerve, on pourrait faire un test, on verrait que quelques minutes plus tard, le Yetzara te proposera de faire une avera, Zerma, pour te calmer.
Bah déjà, même au niveau de la parole,
t'es pas si sûr
quand tu parles.
Alors, je vais expliquer bon, ici déjà son. On va d'abord expliquer en résumé, après on va développer. Donc il dit, qu'est-ce que veut dire le Roche? Pourquoi la colère c'est très grave? Pourquoi la colère ça met le Geinom? Pas seulement le Geinom en bas, aussi le Geinom en haut. Pourquoi? Parce qu'il dit, on voit clairement que lorsqu'une personne s'énerve, il décide de se laisser aller par sa colère, c'est sûr que quelques minutes après, ça va bifurquer en avéra. Il va vouloir faire une avéra pour peut-être pour se calmer, pour se tranquilliser, etc. Mamash comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on s'énerve, ça amène le Geinom. Le Geinom, pas seulement en bas, le Geinom aussi en haut. Parce que, à cause de la colère, ça va amener des avérotes. C'était une soirée tranquille, il n'y a pas de problème qu'il fasse, il y a pas de raison qu'il fasse d'Averot. Quelqu'un l'a énervé, et après pour se calmer, il va se mettre à faire une Averot. D'accord ? Ça va pour se calmer.
Pour la peine,
je vais... D'accord ? Pour la peine, je vais me calmer, etc. Voilà. Le Kaas, ouais. Ça amène l'Averot. Maintenant, l'Admour Hazaken expliquait comme ça, écoutez bien. Il dit, « Dès que chez Libo, chez Adam, Rachab Alav, Mitul Dato. » Il dit, « Le cœur d'un homme, par nature, est très large sur l'homme. » Ça veut dire quoi qu'il est très large ? Enfin, je vous dis comme je comprends, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je pense que bon. Il dit que par définition, le cœur d'un homme est très large.
Il est ouvert.
Non. Ce que j'ai compris quand très large, ça veut dire que il prend beaucoup de place, et qu'en général, c'est le cœur qui domine l'homme. Quand on dit très large, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend de la place. Donc il dit comme ça. Il dit le cœur d'un homme, par définition, est très large, il prend de la place. Comme c'est écrit, qui yetzer lev à Adam ramino orav. C'est écrit dans la paracha Bereshit. Que le Yetzer Hara d'un homme est mauvais depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Très bien. Maintenant, une personne comme ça. Ve'eino sek b'chassidut levarer midotav. Alors lui, il a changé complètement le pshat, Admor Hazaken. Admor Hazaken, il dit, on ne parle pas ici d'une personne qui s'énerve. La Gemara ne parle pas d'une personne qui s'énerve. Comment la Gemara ne parle pas d'une personne qui s'énerve? Il dit non. Il dit, tout le monde, par définition, est nerveux. Alors de quoi elle parle?
D'origine.
D'origine.
Dès le départ.
D'emblée déjà, le Borazaken, c'est un scoop ça.
Moi je connais quelqu'un.
Il n'y a qu'à voir les enfants en général, ils sont tous.
Exactement.
Pour l'énerver lui.
Mais t'as qu'à voir les enfants, au moins un truc.
Il faut un tremblement de terre.
Alors te dit le Borazaken, il te dit, les gens ils étudient la Gemara. Quand ils étudient la Gemara, la Gemara te dit, celui qui s'énerve, toutes sortes de guéinomes le maîtrisent. Les gens ils se disent, bon c'est pas pour moi ça. Tout de suite on s'imagine quelqu'un qui est nerveux.
On travaille.
D'accord. On se dit, ouais lui, bah dis donc.
On sait très bien qu'on est dedans.
D'accord. Mais on se dit, moi, ça m'arrivera pas.
Dans le lot.
Alors, non seulement qu'il te dit que ça t'arrive, mais il te dit plus que ça. Et tu dis, tu es né comme ça, et par définition, tout le monde est coléreux, et tout le monde est tout le temps coléreux. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est quoi la colère?
Potentiellement coléreux.
Non, pas du tout.
C'est quelque chose qui sort de...
Laissez-moi arriver, faut que j'explique ce qu'il dit, parce que c'est très très fort ce qu'il dit ici. Il dit, c'est quoi la colère?
Parce que ça
la colère, c'est une personne qui se laisse aller par son cœur. Les gens, ils pensent que la colère, ça veut dire s'énerver. La colère, c'est les nerfs, on le voit, il est tout rouge. Je dis pas du tout, c'est pas ça la colère. La colère, c'est quand on laisse le cœur avoir le dessus sur la raison. C'est ça la colère. Qu'est-ce que c'est pas quand une personne s'énerve? C'est qu'il va faire des choses que sa raison ne maîtrise plus, que sa raison n'était pas d'accord avec. Donc il dit la vérité, quand on réfléchit, toute la journée, on est tous coléreux, entre guillemets. Parce qu'on fait tous des choses, on fait tous des choses que c'est notre cœur qui domine notre cerveau. Et ça, c'est par définition, là, mettre écrit comme ça.
Tu parlais du cœur qui est là, c'est plus une notion, je pense, que quelqu'un, je ne sais pas si c'est ça, quelqu'un qui, on est tous tournés vers soi au départ, on est plutôt égocentrique, c'est-à-dire
qu'on est vers soi. Au départ, oui.
Et comme tu parles, le cœur prend beaucoup de place, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous dérange? Pourquoi on se met en colère? Tout simplement parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on a.
Oui.
Et
ouais.
Donc, dès que ça sort de notre idée, tac,
on... Non, mais là, ce qui t'explique à propos de la colère, il dit, c'est quoi la colère? La colère, c'est quand le cœur prend le dessus sur la raison. Et c'est comme ça qu'on a été créé.
Donc, dans ce cas-là, tu te considères que le cœur, c'est subjectif, et la chance,
exactement. C'est rationnel. Oui. Ça veut dire que si maintenant, par exemple, je me laisse aller, je vais faire une avéra.
Mais les deux, ils sont
complémentaires. Mon cerveau me dit, ne le fais pas. J'y arrive. Mon cerveau me dit, ne le fais pas. Je me laisse aller. D'accord. Mon cœur me dit, fais-le. Mon cerveau me dit, non, c'est pas bien, ne le fais pas. Et je le fais. Et bien, l'Admor HaZaken te dit, ça s'appelle la colère, ça. C'est comme de la colère. Parce que c'est quoi la colère? C'est quand le cœur va dominer. Le cœur va dominer le cerveau. Oui, mais... Comme il a dit, c'est pour ça qu'on voit ça chez les enfants. On voit qu'un enfant, quand il veut quelque chose, quand il veut quelque chose, un enfant, qu'est-ce qu'on voit? Il va se mettre à hurler, il va se mettre à crier. Vous croyez que l'enfant...
Non, c'est pas
vous croyez...
non.
Deux secondes, j'y arrive. Monsieur Berger, s'il vous plaît, deux secondes. Vous croyez que l'enfant, il se rend pas compte qu'il est en train de déranger tout le monde quand il crie?
Il sait, il est malin.
C'est sûr qu'il se rend compte.
Mais
il le comprend. Et je vais vous dire plus que ça. Peut-être même son cerveau lui dit, tu devrais pas le faire. C'est très possible que son cerveau lui dise. Seulement. Comme son cerveau n'est pas assez développé, son cœur est plus fort que son cerveau.
On peut imaginer aussi une partie de son cerveau lui dit de le faire.
Votre question.
Pour obtenir la chose,
le problème, c'est qu'un enfant,
tous les enfants,
il n'a pas la maturité d'un adulte. Donc, il n'a pas cette capacité à raisonner.
À maîtriser son...
Et en même temps, la maturité, elle ne mène pas toujours à quelque chose de bien.
Mais attends, laisse-moi finir.
C'est tout le combat de quelqu'un.
Donc, qui dit maturité, c'est-à-dire une capacité à pouvoir créer un raisonnement, une logique, qui te permet justement de prendre la bonne décision et d'éviter de...
Mais l'enfant, est-ce qu'il sait qu'il dérange tout le monde en criant?
Mais c'est sûr qu'il le sait. Mais il le sait, mais...
Il
le sait parce qu'on va lui dire, mais naturellement, lui, il le sait
On lui a dit maintenant.
Parce qu'un enfant, de sa naissance jusqu'à l'âge de sa bar mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on m'a toujours dit ça, c'était dans une guémarche, je ne sais plus laquelle en question. Je crois Bellafod d'ailleurs, mais je suis pas sûr. Et on dit qu'un enfant, il ne fait que demander.
Ouais, c'est vrai.
Et à partir de la bar mitzvah, il doit donner. Donc ce qui veut dire que là, quand tu passes de demander à donner, c'est-à-dire que la capacité à passer de demander à donner, ça demande une maturité, une logique, une capacité à réfléchir et à se positionner dans le bon chemin, à dire voilà, je vais faire ça parce que ça je sais que c'est bien. Si je fais ça, eh ben il va m'arriver des bricoles, des cils, voilà. Donc j'ai intérêt à hop tout de suite cadrer vers le bon chemin.
Ça veut dire que être adulte,
donc,
quoi,
donc être adulte,
c'est apprendre à maîtriser,
à capacité à réfléchir, voilà. Et à maîtriser son environnement par rapport aux situations et prendre la bonne décision qui s'impose.
Donc, en clair, ça veut dire être adulte, c'est quoi?
Mais c'est plus ça, c'est pas le cœur.
Est-ce que ma nature a changé depuis que j'étais enfant?
Bien sûr.
Ma nature ne change pas.
Non, si.
J'ai une nature.
Mais la nature de l'individu...
C'est mon comportement qui va changer.
Moi, j'ai appris ça dans le traité Kedoshin. Jusqu'à l'âge de 16 ans, on peut modifier la nature, le comportement de l'enfant.
Oui, le comportement. Pas la nature.
La nature, c'est le comportement, il faut que la nature soit en adéquation.
Je vous donne un exemple, c'est ce que je dis par nature.
Si tu considères que dans la nature, tu as le système de valeurs de l'enfant, tu peux modifier.
Oui,
mais après, tu peux plus.
La maîtrise, c'est apprendre à faire taire certaines choses et amplifier certaines choses.
Et les bases, on les donne dès les trois premières années.
Tu es en train de parler d'étapes. Tu as raison.
Mais
il y a l'étape dans l'âge ou dans l'avancée de l'âge. Mais seulement, comme tu dis, Mandy, c'est vrai que la nature humaine,
on est avec.
Elle ne change pas. Tu apprends à maîtriser.
Mais l'enfant, il a toutes les midotes à la.
Non, mais il a toujours une midote qui est plus forte.
Mais après, il va choisir. Il va prendre celle qui lui.
Il y a une nature. Moi, ma nature, elle est la même que quand j'avais 5 ans. Elle n'a pas bougé.
tu as des gens.
Seulement après, j'ai appris à travailler avec. J'ai appris à essayer de mettre de côté les défauts, à essayer de faire ressortir les qualités. Mais la nature, elle reste la même, elle ne bougera pas. Jusqu'à ma mort, elle sera comme ça. Ça ne bougera pas. Après, j'apprends comment la travailler, comment la former, comment m'en servir. C'est un outil que Dieu m'a donné. La nature, c'est un outil que Dieu te donne.
Et après, en même temps, quand cette même nature, elle peut s'employer dans certaines choses, ça devient une qualité, et dans d'autres, ça devient un défaut.
Exactement, bien sûr.
Ça dépend de la force que tu mets. Bien sûr.
C'est ce qu'on appelle du talent.
Alors, je reprends. Donc, on est dans cette fameuse dracha, on ne peut pas qu'on perde le fil, que l'Admour HaZaken a fait, qui a changé la vie à des milliers de personnes. On va avoir la quintessence, on va avoir le résumé de ce qu'il a dit là-bas. Il dit comme ça. Il dit déjà, quand les gens étudient la Gemara, cette Gemara, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que la colère, on parle de la colère physique, la colère s'énerver. Il dit pas du tout. La Gemara ne va pas de la colère. La Gemara, elle te parle de la vie de tous les jours. C'est quoi la colère? C'est quand le cœur est plus fort que la raison. Qu'est-ce que te dit la Gemara, pardon? Elle te dit, celui qui s'énerve, ça veut dire quoi celui qui s'énerve? Celui qui laisse son cœur dominer sa raison, Kol Mine Geinom Sholtimbo, il a toutes sortes de Geinom qui le maîtrisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne ne peut pas être là seulement à étudier la Torah sans chercher à travailler ses midot. Une personne qui ne travaille pas ses midot, comme il dit ici, plus le temps va avancer et plus il va devenir grossier. Alors d'où il dit ça? Parce que la Gemara là-bas, elle dit comme ça. Elle dit,
on est foutu.
Écoutez bien ce qu'il dit. La Gemara là-bas dit que celui qui s'énerve, les tartoniot sholtimbo. Celui qui s'énerve, qu'est-ce que vous voulez tout à l'heure, il a du mal à digérer. Alors comment elle exprime ça la Gemara là-bas? Elle dit que les membres d'en bas, donc si on parle d'ici, le maîtrisent. Ça veut dire qu'il a des maux de ventre. Comment explique la Gemara Zaken cette Gemara? Tu dis voilà comment il faut expliquer cette Gemara selon le sot. Il dit comme ça. Celui qui s'énerve, ça veut dire qu'il ne veut pas travailler ses midot et que c'est toujours son cœur qui maîtrise sa raison, donc un nerveux, tel qu'on l'explique. Cette personne-là, progressivement, qui c'est qui va le dominer?
Ses ulcères.
C'est tartoniot. C'est quoi tartoniot? Tartoniot,
ses entrailles.
C'est le matériel. Plus il va avancer dans la vie, et plus il va devenir grossier. Ça veut dire que, ça je rejoins ce que M. Berger a dit tout à l'heure, il a dit que, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a créé l'homme de manière que l'homme est moitié matériel, moitié spirituel.
Bah oui.
Il est ni plus l'un que l'autre. Mais il a un problème, c'est qu'il a les sentiments, la raison, le cœur qui est plus fort que la raison. C'est comme ça que je crois à créer l'homme. Après, c'est ton choix. Si tu arrives à travailler ton cœur pour que ta raison soit plus forte que ton cœur, automatiquement, qui c'est qui va prendre le dessus? C'est le spirituel. Le spirituel sur le matériel. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Je dis l'Admor HaZaken. Tartoniot Sholtimbo. C'est l'aspect matériel qui va prendre le contrôle de ton corps. Ça veut dire quoi? C'est très dur ce qu'il dit ici. Il dit que ça veut dire que progressivement, cette personne va passer de l'autorité de la Kedusha à l'autorité du mal. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot. Mais s'il ne s'habitue pas à travailler son comportement, à travailler ses mitzvot, cette personne-là appartient au Sitra Achara. Et c'est pour ça, l'Admor HaZaken, là-bas, il dit, c'est pour ça que des fois, il y a des gens comme ça qui peuvent réussir, qui peuvent aller très très loin dans les études. Qui c'est qui leur donne la force pour réussir? C'est le mal. Parce que dès l'instant où ils ne travaillent pas leur midot, ils ne se travaillent pas sur leur personne, qui c'est qui prend le contrôle de leur corps? C'est les forces du mal. Et tout le mérite de la Torah qu'ils font, va où? À faire les forces du mal. Très dur, ça. Très très dur, ce qu'on est en train de dire ici.
Razak.
Voilà, Kavod. J'étais sûr que t'allais revenir.
Tu veux un petit whisky de coca?
Non, merci.
Je lui dis ça parce qu'il prend jamais d'alcool.
D'accord. Donc,
je te dis ça.
Donc vous me suivez?
Je te taquine.
Ça, c'est un discours de Admor HaZaken.
On a du mal à avaler. Là,
il dit comme ça. Non, je continue. Non.
Quelqu'un qui fait toutes les mitzvot et tout, et qui est coléreux.
Il peut faire toutes les mitzvot. Non, pas coléreux.
Mais non,
c'est pas la colère.
On parle plus de
la vraie colère, là.
Il est dominé par le matériel.
On a dit la colère, c'est quoi? La colère, ça veut dire celui. La colère, ça veut dire celui qui laisse son cœur dominer sur sa raison. Mais c'est pas que dans la colère. Ça peut être dans une avéra basique que je fais.
Si vous rentrez. Ouais, non, mais les avérotes, il va les faire.
Le cœur.
De manière.
Il va
les
télé.
Le soir. Ton cœur est dominé.
Non. On n'a pas dit. Je veux qu'on comprenne bien ce que l'Admor HaZaken a dit.
Ton cœur était lié.
L'Admor HaZaken n'a pas dit. Je veux comprendre bien ce que je veux dire. L'Admor HaZaken n'a pas dit ici que celui qui fait une avéra, automatiquement le mal prend le contrôle de lui. Il n'a pas dit ça. Il a dit une personne qui décide de ne pas donner du temps pour arranger ses midotes, qui dit moi j'ai pas besoin de tout ça, moi je veux juste étudier la Torah et faire les midotes et j'ai pas besoin de prendre du temps pour m'occuper à arranger mon comportement. Une personne comme ça, tout le sroot, tout le mérite, toute la lumière de son étude de la Torah et de ses midotes, elle va pour le mal. Et progressivement, il s'en va vers le mal. Je vais vous dire ce qu'il dit ici après les questions. Il dit « Vekufo namur ma'an Ibrahim ayotir sartonim » Et progressivement, son corps va devenir plus bas que ce qu'est les choses les plus mauvaises qui peuvent exister dans le monde. Et que « Vekahasher achomriyud rachaman elitzan sholet ba'adam » Quand Dieu préserve, c'est le matériel qui prend le dessus chez l'homme, il peut étudier la Torah. Mais quand c'est le matériel qui prend le dessus sur l'homme et qui décide de ne pas prendre du temps pour améliorer son comportement, « Azai chas veshalom rachaman elitzan » Après, on va arriver à une situation que cette personne-là, on va lui dire, mais tu sais, la Shrina, elle aime pas quand on est orgueilleux. Mais cette personne-là, tellement il est en bas, que tu lui dis le mot Shrina, il n'en a rien à faire, ça lui dit plus rien. Il te le dira peut-être pas en face. Mais une personne qui ne prend pas du temps pour améliorer ses midotes, pour se dire comment je vais travailler sur mon comportement, une personne comme ça, progressivement, la Shrina ne le concerne plus.
Il peut pas le faire,
et après...
Excuse-moi.
Oui, mais... Il avait une question, j'ai fini. Ve'az, à ce moment-là, Meshakear Talmudo, Shelamdu Ito, Kodem Yetziato, Lavira Olam. Il dit des mots très très durs. Il dit comme ça. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, lorsqu'on étudie la Torah, on trouve tous des Chidushim. Des Chidushim, ça veut dire que c'est, quand on étudie la Torah, chaque fois, il y a des nouvelles applications qu'on trouve. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Vous savez d'où viennent ces Chidushim? Ces Chidushim viennent parce qu'en vérité, quand on était dans le ventre de notre mère, en vérité, le Malach nous a appris toute la Torah.
Ouais, mais on l'a
et dans le ventre de notre mère, on connaissait tous les Chidushim. Seulement le Malach, il nous a fait une gzera, que juste avant de sortir du ventre de notre mère, on a tout oublié. Mais, on a tout oublié, mais de notre subconscient, c'est toujours là.
C'est latent.
C'est ancré, c'est en nous. Et c'est pour ça, qu'est-ce que tu dis ici?
On peut pas te surprendre.
D'accord. Non, on peut pas le retrouver tout seul.
Mais
c'est là.
Ça marche pas, c'est pas comme ça.
C'est là, mais c'est ici, c'est là. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis en train d'étudier la Torah et que je découvre un chidouche, en fait, qu'est-ce qui se passe? En vérité, ce chidouche, je le connaissais. Je ne fais que retrouver ce chidouche dans ma mémoire de mon subconscient.
Bon sang, là, c'est bien sûr.
D'accord. Maché Enken, alors que si une personne ne prend pas du temps pour travailler sur ses midot, et que qui c'est qui prend le contrôle, on a dit, de son corps, c'est les forces du mal. Il te dit, cette personne-là, non seulement que quand il fait un chidouche, ça ne vient pas de là-bas, parce que cette personne-là, quand une personne a de l'orgueil et qui ne travaille pas sur ses midotes, qui laisse son cœur avoir le dessus sur sa raison, qu'est-ce qui se passe? Il bouche l'accès à son subconscient, et automatiquement, même les chidouchim qu'il croit qu'il va trouver, ici, il dit clairement, il dit que en vérité, c'est type shoot et des bêtises. C'est-à-dire qu'on voit qu'en vérité, quelque chose comme ça, quand ne pas vouloir travailler ses midotes, c'est quelque chose qui peut détruire un homme de l'intérieur. On peut croire qu'on continue à être religieux, qu'on continue à faire la Torah et les mitzvot. Quand une personne ne prend pas du temps pour travailler ses mitzvot, ça peut le détruire de l'intérieur jusqu'à ce qu'il descende, et il dit après progressivement, la personne lui-même, il verra qu'il aura du mal à voir clair dans la Torah. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il a refusé de travailler sur ses mitzvot. Et ça, c'est comme ça que l'Admor HaZaken explique. Kol HaKoes, tout celui qui s'énerve, Kol Mine Geinam Sholtimbo, progressivement, ça veut dire quoi s'énerver, on l'a dit? C'est pas seulement la colère. La colère, ça veut dire décider que je laisserai aller mon cœur sur ma raison. Même si en parallèle, tu étudies la Torah et tu fais d'autres mitzvot, cette personne-là, progressivement, c'est le Geinam qui va prendre le contrôle de son corps. Hein, il y avait une question.
Non, je dis ces notions. Le Tania l'aborde ici et autres. Mais on peut penser quand même que c'est des notions déjà qui étaient abordées par la Torah.
Bien sûr. Ouais. Alors, c'est pour ça que je parle du Rambam.
Oui, non, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'en même temps, ça paraît naturel. C'est-à-dire que si tu... On fait que des notions de Talmud ou autre qui, sans avoir à travailler là-dessus, on a l'impression effectivement qu'il n'y a pas de côté pratique. Il y a le Tania qui l'aborde et effectivement tu parlais de quoi? De
Rambam. Rambam. Oui, on va y arriver.
Donc, en quoi c'était. Voilà.
En quoi?
Non, je voulais savoir ce que ça portait de nouveau par exemple au texte de Rambam ou autre.
Là déjà, parce que quand on lit la Gemara, on comprend qu'on parle de la colère. La colère a strictement parlé.
Des développements déjà d'or.
Bien sûr, la Gemara ne te donne pas tous ces développements-là. C'est la Admor HaZaken qui dit qu'en vérité, De quoi parle la Gemara ? La Gemara ne parle pas de la vraie colère, elle parle plus fort que ça. Elle parle de ce qui s'apparente à la colère. C'est quoi ce qui s'apparente à la colère ? C'est laisser le cœur avoir le dessus sur la raison. Maintenant, attention, c'est il n'a pas dit que si ça m'arrive de laisser mon cœur avoir le dessus sur la raison, ça veut dire que c'est fini, c'est le guéhinnom et que le Israël est sous mon contrôle. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tant que tu travailles, tout va bien.
Mais la raison, elle est maligne, elle te dit tu travailles.
Il y a un autre endroit où le Rabbi Pressonnet donnait un exemple.
Il dit,
t'as une moustique.
T'inquiète pas.
T'as une moustique.
Tu te fais endormir.
D'accord. Et t'as une araignée qui a envie qui a envie de manger la moustique.
Le
moustique. Mais elle sait que c'est dangereux, parce qu'elle sait que si... C'est qu'elle va le piquer. Alors qu'est-ce que fait l'araignée ? L'araignée, elle va tisser une toile.
Elle tente sa toile.
Maintenant, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années même. Vous savez, une toile d'araignée, ça peut prendre des années même, des fois.
Ah bon ?
Parce qu'ils ont les parents et les enfants, etc. Ils ont des organisations, c'est pas des rigolos. Il y a des endroits où c'est... D'ailleurs, on voit. Maintenant, on est capable de dire depuis quand elle dure une toile d'araignée. Donc, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il fait ? On voit qu'il y a un endroit où il y a un moustique. Qu'est-ce qu'il fait l'araignée ? L'araignée, elle vient, elle commence à tisser cette toile. Elle ne touche pas la moustique, elle n'en met pas. Ensuite, une fois qu'elle a bien formé, elle a bien bloqué tous les côtés.
Elle bloque les moustiques.
Elle bloque la moustique. La moustique, maintenant, elle va essayer de sortir. Elle va se battre pour sortir. A priori, c'est le moment pour l'araignée de l'attaquer. Elle n'attaque pas.
Elle se fatigue.
D'accord ? Elle va la laisser se crever. Elle va la laisser se crever, essayer. Tant qu'elle essaye, l'araignée ne touche pas. À un moment, on peut le voir ça, à un moment, la moustique va lâcher. Le moustique va lâcher. Ouais. Et là, à ce moment-là, exactement à ce moment-là, la même seconde, c'est l'araignée qui va venir et pac, qui va l'attaquer. Qui va prendre son sang.
Comme la montre religieuse.
D'accord ? Mais tu peux le voir, c'est à la seconde même. Alors, Rabbi Pressonnet, il a amené ça pour en faire un machal. Il disait comme ça, il disait, c'est la même chose que le Yetzirah. Pour répondre à la question de David. Tant qu'une personne se bat, même si, a priori, il n'y a pas d'espoir, il y a des toiles d'araignée partout, où tu vas aller. Tant que tu te bats, ça tourne encore.
Il y a de l'espoir.
À quel moment le Yetzirah va t'attaquer ? Dès que tu arrêtes de te battre, tu dis, bon, ça y est. À la même seconde, le Yetzirah, il t'attaque. Ça veut dire que je suis pas en train de dire que celui qui a craqué une fois, celui qui a craqué deux fois, ça veut dire que c'est fini, c'est un rachat. J'ai pas dit ça. On parle ici, la Bourazaken dans cette sira, il parle d'une personne qui a décidé intentionnellement de ne pas passer du temps pour travailler sur ses midotes. Il a décidé, il a dit, moi je veux juste étudier.
C'est bon, j'arrête.
D'accord ? Je veux juste étudier, je m'occupe pas du reste, le reste tant pis. C'est pas grave, mon cœur, ma raison.
Par rapport à ce que tu as dit samedi.
Oui.
Tu as dit qu'un des moyens pour lutter contre la colère, c'est d'avoir la crainte d'Hachem.
Oui.
Bon. Ben là, il ne peut pas, puisque comme il est orgueilleux, il se positionne au-dessus, donc il n'a pas cette crainte-là. Donc il ne peut pas avoir la capacité à se remettre en cause et à faire les efforts pour changer
son comportement. Il explique, ça c'est un peu ce qu'il va dire tout à l'heure. En vérité, c'est expliqué en Chassidut aussi, que la colère est très souvent liée à l'orgueil.
Ah bon ?
Ouais, ce que tu as dit tout à l'heure.
Oui, l'ego, ça.
En vérité, c'est très lié. Le ka'as, c'est beaucoup lié à la gaava. Parce que c'est quoi la gaava ? C'est quoi l'orgueil ? Pourquoi je m'énerve ?
Non, l'orgueil.
Pourquoi je viens, je m'énerve ? D'accord ? Je m'énerve. Ça m'énerve à moi.
Ouais, mais il y a un lien. Qui peut avoir un lien, je suis d'accord, mais c'est deux notions différentes.
Deux notions différentes, mais ils sont en général liés. C'est-à-dire qu'une personne qui est orgueilleuse, va s'énerver quand on a touché à son ego.
C'est deux formes de caractère.
Mais la colère, elle va se. Va se faire jour dès lors que la personne qui est face à toi n'adhère pas à ton schéma, à ton système de valeurs.
Exactement.
Et donc,
pourquoi ça me dérange ?
Toi, tu essaies de lui expliquer.
Mais pourquoi
ton
ça me dérange ?
Mal, et l'autre, il te dit non, et il te fait monter, comme on dit, la Santa Maria à la tête.
Mais pourquoi ça me dérange ?
Et puis.
C'est pas chez nous, ça.
C'est une expression espagnole. Tu vois, et tu deviens fou, quoi, je veux dire. Mais tu deviens rouge comme un pivoine.
Mais pourquoi ça me dérange ?
Parce que toi, t'es persuadé que t'as raison, et l'autre, il te dit non,
t'as tort. Ça veut dire que c'est lié à l'orgueil.
Ah non, pas forcément.
C'est une forme d'orgueil.
L'orgueil, c'est...
Vous savez, on dit que les enfants sont très orgueilleux.
Non, l'orgueil, c'est vouloir mettre en avant une capacité à dominer l'autre, parce qu'on a un pouvoir au niveau de ses comportements, de sa nature.
On va dire l'égoïsme.
Fait que,
dans ce cas-là,
on veut écraser la personne.
Ne mettez pas le mot orgueil, si vous préférez, mettez le mot égoïsme. Si vous préférez. Parce que peut-être le mot orgueil, on va mettre le mot égoïsme.
C'est autre chose.
Vas-y.
Quelqu'un qui t'a arnaqué.
Oui.
C'est pas de l'orgueil, tu es énervé contre lui, tu vas le tuer. Après, c'est l'orgueil.
Le tuer ?
Tu as raison. Tu as raison. C'est pas toujours lié. J'ai pas dit que c'est toujours lié. Mais en général, c'est lié.
Non, qui est lié, on est d'accord.
Ça veut dire que ça arrive à un moment précis.
Je te donne un exemple. Ta femme va te faire une remarque. Ça va te blesser, tu vas t'énerver.
Non, elle est gentille, Karen.
D'accord ? Non, je parle pas de toi, je parle pas de ta femme. D'accord ? Pourquoi ça t'a énervé ?
Parce que
mais pourquoi ça t'a énervé? Ça t'a énervé parce que ça t'a touché dans ton ego. Oui. Comment à moi elle peut me dire ça? Oui, si tu le dis, c'est ça. Donc tu vois que la colère dans ce cas-là est liée à l'égoïsme. Maintenant, on est tous égoïstes, c'est normal, on est né comme ça. On apprend à travailler sur ça. Mais c'est pas un défaut. On est né comme ça, on doit apprendre à faire avec.
Ouais, c'est pas aussi dominant quand même, parce qu'après c'est.
Après, il y a en fonction des pays, des machins, c'est vrai que c'est différent, il y en a qui s'énervent plus facilement que d'autres.
Des pays, t'as dit ?
Oui, quand il fait chaud
les
en général.
Ah. Les mentalités, oui.
Mentalité.
Ah, les latins, c'est vrai, ils ont une propension.
Voilà. Donc,
les asiatiques,
méditerranéens.
Ashkenaz, ils sont beaucoup plus froids déjà.
Oh, t'inquiète pas, chacun sa manière de s'énerver.
Ouais, non, mais quand ils pètent, ça pète pas.
Alors, il dit comme ça. Qui a tralat à Avoda, je finis avec ça pour le Dvar Torah du Edmour Azaken. Qui a tralat à Avoda ou Birur Amidot. Il dit quand une personne veut commencer à travailler, à servir à Kadosh Baruch Hu, numéro 1, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut que tu commences à travailler sur ton comportement.
Il faut qu'il s'efface.
Non, avant même ça, ça veut dire déjà décider que je vais prendre du temps pour me travailler sur mon comportement.
Chacun, il connaît ses défauts.
Chacun connaît ses défauts.
Ça, on le fait pour
si je décide de ne pas prendre du temps pour ça, de me dire, moi je m'occupe pas de ça, moi je m'occupe juste d'étudier les sujets qui m'intéressent, et mon comportement, j'en ai rien à faire, je me comporte comme je suis, et je suis comme je suis, et c'est tout. Il te dit... On n'a pas besoin de connaître les autres, on parle de nous maintenant, on parle de nous.
C'est déjà pas mal. Hein.
Et bien on te dit, une personne comme ça, progressivement, c'est l'aspect matérialiste qui va prendre le contrôle de sa personne, et même quand il va faire des chidushim, c'est même pas des chidushim, c'est une type shoot, c'est des bêtises, à tel point hein, qu'avec le temps lui-même il va se rendre compte que ça va nulle part. Mais il va être pris par son trip, et ça pourra aller nulle part. Tout ça pourquoi? Tout ça c'est quand on décide de ne pas vouloir travailler sur ses midotes. On dit écoute, je suis comme je suis. Ouais, c'est comme un homme qui dit à sa femme, il dit écoute, je suis comme je suis, tu m'acceptes comme je suis. Dès que tu as dit ça, c'est la catastrophe. Tant que tu dis, écoute, je vais essayer, je vais faire un effort, on va essayer. Même si tu lui dis ça tous les deux jours, pas grave. D'accord, tous les deux jours, tu fais un effort.
Est-ce qu'il doit te dire la même chose parce que...
Une fois par mois, c'est bien.
D'accord. Tous les deux jours, tu lui dis, désolé d'avoir fait ça, je vais faire un effort, je remets la prochaine fois. Tant que tu lui dis, je ferai mieux la prochaine fois, il y a encore de l'espoir. Dès le moment où tu lui dis, écoute, je suis comme je suis, tu me prends comme je suis, c'est à prendre. Ou à laisser. Dès que tu arrives à ce moment-là, c'est fini, l'araignée, elle attaque et c'est fini. D'accord ?
Le mariage.
Et donc voilà comment on explique. Voilà comment on explique l'Admor Hazaken Kolakoès. C'est quoi Kolakoès ? Celui qui s'énerve. C'est celui qui décide de laisser son cœur avoir le dessus sur sa raison. Il ne faut jamais décider de laisser une chose comme ça. Il faut toujours se dire je vais essayer.
D'accord ? C'est ce qu'on fait pour.
Et ça explique ça l'Admor Hazaken. Il dit ici, ça c'est donc je reprends dans une autre histoire. C'est le rabbi précédent. C'est le rabbi précédent qui reprend donc une histoire que lui a raconté son oncle, Rabbi Nahum. Que ce Rabbi Nahum lui a dit qu'il a entendu cette histoire hein, des élèves d'Admor Hazaken. Et il a dit, ils ont dit comme ça, les élèves d'Admor Hazaken, il a dit, lorsque l'Admor Hazaken nous a fait cette dracha, apparemment c'est une dracha qui avait duré longtemps, il a dit, il a changé complètement notre manière de voir les choses. Qu'on a compris que le but c'est pas simplement d'étudier la Torah, qu'en vérité on peut être quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, mais être complètement à côté de la plaque. Alors que d'un autre côté, ça peut être des fois des gens qui étudient pas beaucoup de Torah parce qu'ils n'ont pas les capacités pour et qui font les mitzvot comme ils peuvent, mais c'est des gens qui se travaillent sur leur personne. Une personne comme ça, le peu qu'il fait, il est pris par le contrôle de la Kdusha. Alors qu'une personne qui ne travaille pas sur sa personne, il peut étudier toute la Torah que tu veux, il peut faire toutes les mitzvot que tu veux, s'il ne travaille pas sur sa personne, qui c'est qui prend le contrôle de sa personne? C'est les forces du mal et progressivement il va tomber, je crois que c'est Tartoniot Choltimbo. Ça veut dire que c'est ses entrailles qui vont l'attraper, c'est-à-dire c'est l'aspect matériel qui prend le contrôle de son corps. Et ça, il dit que quand l'Admor Hazaken a dit ça, on a eu après des chassidim qui ont travaillé sur ça pendant des dizaines d'années pour travailler, pour se dire, même si on n'a pas réussi, il faut au moins qu'on se dise toujours qu'on va essayer.
Comme ça, l'araignée ne nous mange pas.
Elle me mange comme ça.
Ah oui.
Bah oui. On le voit, ça. Est-ce que vous avez déjà vu une fois? On le voit, maman. L'araignée, tant que le moustique se bat, l'araignée ne touche pas. Ou l'abeille, ce que tu veux. Dès le moment, on le voit un moment, il se pose comme ça, il tombe comme ça, à ce moment-là, pac, tout de suite, il a tout de suite. Même seconde.
Il laisse s'empêtrer.
D'accord ? Non, il laisse s'arrêter de se battre.
C'est ça.
Mais une fois qu'il est coincé comme ça,
s'il est coincé,
une fois qu'il a arrêté de se battre, d'accord. Non, en fait, une fois quand j'étais.
C'est collant. Enfin, si tu reprends l'image, c'est la toile d'araignée, elle a une collante.
Ouais.
Donc il se bat, et au bout d'un moment, il est tellement empêtré dedans qu'il ne peut plus bouger.
Il se dit bon, ça y est, tant pis.
Il est fatigué.
C'est fou de dire.
La conception d'un homme et d'une femme, de la situation avant et après le mariage.
Ah oui.
Je le connais.
C'est quoi ?
Un homme.
Non.
Une femme, elle passe tout son temps à penser qu'elle va changer son mari, elle s'aperçoit qu'après le mariage, il ne change jamais. Et pour l'homme, c'est l'inverse, quoi. Il ne voulait pas qu'elle change, et elle change.
Dans la boîte.
C'est qui ? C'est toi, ça ?
Et ben, après ce cours, l'homme, il va changer.
Il va changer, ouais.
Bon, maintenant...
De la relation par rapport au mariage.
Pour expliquer ce texte du...
Comme ça, primaire au départ, matériel.
Pour expliquer, je pense, ce texte très important d'Admor HaZaken, on va étudier le Rambam. Le Rambam, dans les lois Ilchot Deot. Ilchot Deot, c'est les lois des comportements. Vous savez que le Rambam, c'est comme une sorte de Shulchan Aruch, mais il a créé aussi les lois des comportements. Très intéressant.
C'est
dans Mada. Donc, il y a 14 tomes. Le tome Mada. Mada, c'est la science. Dans le tome de la science. Mishneh Torah. On l'a dit comme ça. Je vais vous dire à l'oral, vous allez voir, c'est très intéressant. Et ça va rejoindre ce qu'on a expliqué ici. Il dit, quelle est la définition d'une maladie ? C'est quoi une maladie ?
Une maladie.
Maladie du corps. Hein. Il dit comme ça. Il dit, il y a plusieurs catégories de maladies. C'est une catégorie de maladie, par exemple, c'est des gens qui trouvent que ce qui normalement est amer, ils vont trouver ça bon, et ce qui est bon, vont le trouver amer. Par exemple. Une maladie, ça peut être... L'exemple qu'il veut donner ici, par exemple, ça peut être l'obésité. L'obésité. C'est quoi l'obésité ? D'où ça vient l'obésité ? C'est très simple. C'est que normalement, il y a des choses qu'un homme doit aimer, et il y a des choses qu'un homme doit moins aimer. Quand j'aime plus une chose que je devrais pas trop aimer, je l'aime beaucoup, alors qu'en vérité, les vrais aliments, ceux que je devrais aimer, je ne les aime pas, ça s'appelle une maladie. Ça veut dire, dans les mots du Rambam, c'est « Toamim amar matok, ve amatok mar ». C'est penser que ce qui est bon n'est pas bon, et ce qui n'est pas bon est bon. Bon, il dit maintenant, dans la maladie, d'abord il va parler des maladies du corps, après il va parler des maladies de l'âme, parce qu'il va faire des parallèles. Vous allez voir, après on va arriver à la colère, parce qu'il va parler de la colère. Il dit comme ça. Il dit maintenant, dans les malades, t'as des gens qui trouvent que ce qui est bon, enfin, tu lui donnes de l'eau, il dit « Ah, j'aime pas l'eau ». Tu lui donnes du whisky, il va dire « Ah, ça c'est bon ». D'accord ? Voilà. Ça s'appelle... Ça s'appelle une maladie. C'est quoi la maladie ? La maladie, c'est trouver que ce qui est bon n'est pas bon, et que ce qui est pas bon, c'est bon. Et une deuxième... Donc, c'est quoi la maladie ? Progressivement, il te dit, la personne va s'habituer, bon, c'est un exemple que je vais donner, hein, va s'habituer à détester... les bons aliments. Alors qu'une personne qui est en bonne santé...
Tu parles des aliments sains.
Des aliments sains. Alors qu'une personne qui est en bonne santé...
C'est pas tellement... Pardon. Hein,
oui.
À mon sens, c'est pas tellement une question de goût. C'est une question d'aliments
sains. Qui est bon pour le corps. Ouais. Voilà. Et donc, il dit comme ça. Il dit de la même manière qu'on a ça à propos du corps. Et on voit que plus une personne se laisse aller à manger des choses qui sont pas bonnes pour son corps, et plus il va s'empêtrer, et après c'est trop tard. On te dit quelque chose que tu dois pas manger. Et
du camp.
Il n'arrive pas à se retenir et il mange. Plus tu avances et plus tu auras du mal à revenir aux vrais aliments. On est d'accord ? Bah, il te dit c'est exactement la même chose pour spirituellement. Spirituellement, Akadosh Baruch Hu, instinctivement, il a créé l'homme. Que l'homme, depuis qu'il est bébé, il sait qu'il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui ne sont pas bien. On le sait ça. Depuis qu'on est bébé, on sait qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui ne se font pas. Seulement, qu'est-ce qu'il fait, Yetzahara ? Yetzahara, petit à petit, te met dans la tête, te dit, ce que tu croyais être bon, ah, c'est pas bon, c'est nul, ça. Est-ce que tu croyais être pas bon, parce qu'on t'a toujours dit que ça se fait pas, il dit, ah, ça, c'est un kiff. Qu'est-ce qui va se passer ? Exactement comme pour la nourriture. Progressivement, tu vas avancer, et plus tu vas t'habituer à ne pas aimer le bien et à aimer le mal, plus tu vas avancer, et qu'est-ce qui va se passer, malheureusement ? Ben plus tu vas avancer, et plus tu auras du mal à revenir vers le bien.
C'est une modification.
Alors, te dire Rambam, c'est quoi la... Comment faire une personne qui est tombée comme ça ? Une personne qui est tombée comme ça, qui s'est habituée à avoir le goût du mal. C'est habitué pour lui, quand tu lui dis la fête, il s'imagine tout de suite les bêtises. Il est oublié que c'est une vraie fête, une fête de famille. Il sait pas, il a oublié. Enfin, une personne comme ça, comment tu fais pour le ramener ? Alors il te dit, c'est très simple. Il te dit, une personne comme ça, pour le ramener, il doit aller complètement à l'inverse. Ça veut dire, normalement, j'explique. Il dit, alors il donne un exemple. Attends. Il donne un exemple. Il dit, on va prendre l'exemple d'une personne.
Il y a beaucoup de rabat dans ce.
D'accord. On va prendre l'exemple d'une personne qui est atteinte par la colère.
En tout cas.
Normalement, quand on est enfant, depuis qu'on est enfant, on le sait instinctivement que la colère, c'est bon seulement quand c'est modéré. Ça veut dire que normalement, on doit s'énerver seulement quand c'est des cas extrêmes. Mais que dans un cas normal, on ne doit pas s'énerver. Qu'est-ce qui va se passer? Une personne qui est coléreux, il sent que ça ne se fait pas ce qu'il fait. Mais chaque fois, il a poussé le bouchon un peu plus loin. Donc au début, il va s'énerver pour une petite chose. Il va dire, après, il va dire, ça ne se fait pas ce que j'ai fait. Mais bon, quand il a vu que c'est passé, la fois d'après, il va s'énerver encore un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et sur un autre détail, sur un autre détail. Et progressivement, plus il va aller, et plus il va se mettre à s'énerver pour des bêtises. Mais il ne se maîtrise même plus. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la normale des choses. La normale des choses te dit que normalement, le droit chemin, c'est ni tu t'énerves pas, ni tu t'énerves. C'est tu t'énerves seulement pour les choses importantes.
Ça, c'est quand t'es mal luné.
Quand tu te permets de te dévier, de t'énerver pour des choses au début qu'il fallait pas s'énerver, plus tu attends, plus tu avances et plus tu te laisses énerver, et plus après, à la fin, au bout du compte, tu vas te retrouver à t'énerver pour des bêtises que toi-même, tu sais qu'il faut pas t'énerver pour ça, mais c'est trop tard. Tu ne sais plus ce que c'est être zen, être normal, ça n'existe plus dans ta tête. Alors c'est quoi la solution d'une personne qui est comme ça, de dire un bam?
Il devient zen et il énerve les autres.
C'est d'aller complètement de l'autre côté.
Merci.
Bien que normalement, la Torah te dit, bien que la Torah te dit normalement, il faut pas aller aux extrémités. Il faut toujours être au milieu.
Non, mais c'est comme l'eau chaude et l'eau froide, quoi. Il faut mettre maximum d'eau froide pour mettre l'eau tiède.
Normalement, on n'aime pas les extrémités chez nous. Ça veut dire trop calme, trop nerveux, c'est pas bon. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, on en connaît.
Chez nous.
Dans ce cas-là, d'accord. Il y a des fois.
Trop calme, ils sont pas chez nous.
Il y a des fois des femmes qui reprochent à leur mari d'être trop calme. D'être trop calme, ça veut dire de. Il me dit, quoi, tu réagis pas?
Énerve-toi un peu.
Me bouge un peu, réagis.
Je lui dis des fois, tu me laisses pas de place pour que je m'énerve. T'as tout pris tout
seul. Hein.
Laisse-moi un peu, je m'énerve.
Donc le dire un bam. Parce que n'oubliez pas le fil, parce que je vais expliquer avec ce que Morozaken veut dire. Te dire un bam, il te dit. Il te dit qu'une personne comme ça, il va aller chez un docteur. Qu'est-ce qu'il va lui dire le docteur? Le docteur, il va lui dire, maintenant, tu dois bifurquer complètement de l'autre côté. Bien que normalement, dans la Torah, on te dit, il ne faut pas les extrémités. Pourquoi tu lui demandes d'aller complètement de l'autre côté, de devenir zen, etc. Parce qu'on te dit, on sait que toi, tu es complètement à droite ou complètement à gauche. Tu vas bifurquer complètement à droite. Mais on sait qu'avec le temps, tu finiras par revenir au milieu. Il donne un autre exemple. Il doit avec l'orgueil. Il a un problème, il est touché par l'orgueil. D'accord? Normalement, la Torah t'interdit d'aller aux extrémités. Ça veut dire, l'orgueil, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, se délaisser, se laisser aller, ça veut dire, comme il dit Rambam, marcher avec des vêtements délaissés, comme ça, avoir un look délaissé, c'est pas bien non plus. Donc l'orgueil n'est pas bien. Mais d'un autre côté, se rabaisser complètement, c'est pas bien. Alors c'est quoi la solution? Celui qui te dit comme ça, s'il y a une personne qui a été atteinte par l'orgueil, qui pense qu'il est atteint par l'orgueil, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller complètement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il doit volontairement délaisser un petit peu son look.
Pousser les cheveux et pousser la barbe.
D'accord. Pourquoi? J'ai pas dit ça.
Non, j'ai entendu ça. Ah,
pousser la barbe.
J'ai entendu ça. Son look.
D'accord. Il délaisse un petit peu son look. Pourquoi? Comme ça, automatiquement, progressivement, après, il reviendra au chemin. Il reviendra au chemin du milieu.
D'où le Homer.
C'est ce qu'il dit le Rambam. Maintenant, il te dit le Rambam. Ça, c'est. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, dans quel cas on a dit ça, hein? On a dit ça seulement pour les midot standards. C'est-à-dire, comme par exemple, comme. On a dit ici, comme la colère, comme l'orgueil. Mais il te dit, il y a une chose dans laquelle la Torah te dit que pour ça, il ne faut pas aller au milieu, il faut toujours aller le plus loin possible. C'est quoi, hein? Il te dit, c'est le chaos, la colère. Alors j'explique. Pourtant, on vient de parler de la colère, il explique. Il dit comme ça. Il dit, on dit à propos de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il était Vaish Moshe Anav Me'od. Mm-hmm. Moshe Rabbeinu était très humble. C'est-à-dire quoi, très humble? Pourquoi tu dis pas humble tout court? Pourquoi tu dis très humble? Ça fait un peu blata. Pourquoi tu dis très humble? D'accord? Humble, ça suffit. Anav Meod, je suis très, très, très. Pourquoi tu dis très humble? Alors dans ce cas-là, dis très, très humble. Et après, dis très, 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 très. Et à quoi tu joues? À quoi ça sert? Alors, il dit comme ça, Rambam. Il dit en vérité, parent, te dit très humble pour te dire que sur l'humilité, il ne faut pas avoir peur de pousser plus vers l'humilité que vers l'orgueil. Bien que normalement, il faut toujours chercher à être au milieu, on a dit, au centre. Mais sur l'humilité, il faut toujours chercher à être plus vers l'humilité que vers l'orgueil. Alors, il donne un exemple. Il te dit comme ça. Il te dit, une personne doit s'habituer à ne pas s'énerver. Et même s'il y a des choses sur lesquelles il faut s'énerver, il faut s'habituer à laisser la colère au dernier ressort. C'est vraiment quand tu n'auras plus le choix. Et il ramène ce qu'on a dit ici dans la Gemara, que quand une personne s'énerve, il perd le contrôle de son corps. De son corps. Donc il te dit comme ça. Il te dit, je le lis dans les mots parce que ça c'est ma mâche très fort. Il dit, V'chen akaas, la colère. Mida ra'a yad limod. C'est une mida qui est très mauvaise. Et un homme doit aller complètement de l'autre côté. Ça veut dire, il doit aller complètement de l'autre côté, ça veut dire dans l'humilité, être zen. Il doit s'apprendre, il doit s'enseigner, de ne pas s'énerver, même sur des choses sur lesquelles il faut s'énerver seulement en dernier recours, en dernier ressort. Alors ça, d'où il tire ça le Rambam? Il tire de la Gemara Ta'anit. La Gemara Ta'anit, elle dit là-bas, elle dit que des fois, les Talmidei Chachamim, ils peuvent s'énerver plus rapidement que les autres personnes. Pourquoi? Parce que dans l'étude, on doit s'énerver. On dit que les Talmidei Chachamim dans l'étude... Dans l'étude, dans la Gemara, on voit que souvent, il y a des nerfs.
Vous n'avez pas un côté positif.
Mais c'est pas un côté négatif. Au contraire, c'est que c'est une colère saine, c'est une colère qui me permet de... On va dire, on étudie avec de la chayout, c'est animé. Voilà, le problème, c'est qu'une personne qui a pris l'habitude d'exprimer son point de vue de manière animée, cette personne-là, quand il arrive à la maison et que sa femme va lui dire on fait pas ça, d'accord,
il va s'animer.
Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il a l'habitude de parler comme ça. Donc on peut dire que la même chose, si on pourrait appliquer ça, c'est pas seulement pour un homme qui fait étudier la Torah, c'est même pour un homme qui est commercial, par exemple. Un homme qui est commercial, qui a pris, qui est professeur, enfin, on est tous concernés par ça. Quelqu'un qui prend l'habitude que dans sa journée de travail, il doit s'exprimer et il doit développer une argumentation. Donc il ne peut pas développer une argumentation de manière froide. Bien, voilà, écoutez, ben, on vend un produit, ben, voilà, ça, voilà. Ben, ce que tu veux. Ben. Ça marche pas. D'accord, si tu veux vendre le produit, il faut une argumentation. Il faut croire dans le produit. Il faut être enthousiaste. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu t'habitues à défendre ton point de vue de manière énergique, et ben quand tu arrives à la maison et que tu n'es pas d'accord et que tu la défends ton point de vue de manière énergique, tout de suite ça arrive à la colère. C'est la Gemara Tani qui dit ça. Elle dit que.
C'est la nuance qui est importante.
C'est.
Et dans la vente, c'est la nuance qui est importante.
C'est là.
C'est la nuance.
C'est quoi la nuance?
C'est-à-dire que si tu donnes toujours la même intensité à ton discours, ça ne peut pas marcher. Et ce qu'il faut, c'est à un moment donné.
Mais il faut mettre du cœur dedans. Il faut mettre de l'énergie. Il y a de l'énergie que tu mets dedans. Tu mets de l'énergie pour déployer. Là, on sent que...
Il y a des moments stratégiques dans l'argumentation.
Bien sûr. Attendez. Ça, c'est une qualité que...
Bon. Négociation et relations commerciales.
Donc, tu dis comme ça. Il te dit...
Le marketing, il pense qu'ils ont ce besoin, les commerciaux. Je pense que le produit lui-même, ça suffit.
C'est une grosse erreur. C'est l'erreur des Français.
C'est une grosse erreur. C'est
pour ça que
Peugeot, il est un petit peu... Il est en Chine.
Il est mal.
Donc je continue. Il te dit Rambam, il te dit comme ça. Il te dit qu'une personne doit s'habituer à ne pas s'énerver. Surtout s'il a un métier dans lequel il doit développer des argumentations de manière énergique. Il doit faire très attention à la maison de ne pas tomber dans les nerfs. Elle dit, mais comment il fait maintenant? Si c'est maintenant une personne, un homme, qui a envie de mettre l'ordre à la maison. Si c'est un professeur qui a envie de mettre l'ordre à l'école. Si c'est maintenant, je ne sais pas moi, il amène cet exemple ici, si c'est un Rav qui a envie de mettre l'ordre chez ses élèves, comment il doit faire? Regardez ce qu'il dit Rambam. C'est quelque chose que le Rabbi ramenait souvent, ça. Il doit leur faire croire qu'il est énervé.
Simuler.
Ça veut dire qu'il ne faut jamais crier quand on est énervé. Serge, t'es avec nous ou pas?
Non, il est pas
hein du tout. Tiens, lui, un petit l'échaïm, là.
Il est
hein.
Il
te dit comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Rambam? Il te dit... Il y a quelque chose qui t'énerve.
Il doit simuler.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. S'il y a quelque chose qui t'énerve et que tu es énervé, ne parle pas. Faut rien dire. Tu dis oui, mais dans ce cas-là, si je parle pas, et ils vont croire qu'on fait ce qu'on veut à la maison, et ils vont croire qu'on fait ce qu'on veut à l'école, ils vont croire qu'on fait ce qu'on veut dans la classe. Alors comment on fait? Il te dit non. Il te dit, à certains moments, il faut faire croire que tu es énervé. Mais ça, tu peux le faire seulement quand tu es sûr que tu n'es pas énervé. Toi, en toi-même, tu sais que tu n'es pas énervé. Alors là, tu peux te permettre de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, etc. Mais en toi, tu sais que tu es zen. Là, dans ce cas-là, il te dit, si tu fais ça uniquement pour impressionner, parce que des fois, il y a besoin de ça. Dans ce cas-là, il te dit, si au fond de toi, tu sais que tu es resté calme, c'est très bien, pas de problème. Mais si tu es énervé, dans ce cas-là, il ne faut rien dire. Parce que du chaos, il te dit clairement le Rambam, il te dit le chaos, il faut éviter le chaos au maximum. Il faut éviter la colère au maximum.
Ah ouais, parce que ça engendre la colère après.
C'est alors,
clair. Le prof, en général, quand il balance la crie, il est pas en colère.
Jamais on balance la crie.
Alors regardez,
balance le tampon.
Je vais vous lire maintenant. Donc je vais vous lire ça dans les mots de Rambam. Je pense que c'est très important ça.
Le ton.
Aujourd'hui, il jette des iPads, des iPhones.
Ça, c'est ma mage des choses qui nous concernent dans la vie de tous les jours.
Je génère dès le début, dès que je rentre, je dis... Donnez tous vos portables éteints, vous les mettez dans la boîte, vous les prenez à la fin de l'heure.
Mais est-ce que vous êtes vérité énervé?
Non, pas du tout.
Ah. Voilà.
Mais j'insiste. C'est-à-dire, je me braque contre eux, je leur dis voilà, c'est ça. Et voilà.
Fais attention, ils peuvent te braquer.
Voilà,
C'est-à-dire, la prochaine fois que vous voyez un rabbin énervé, demandez-lui est-ce que vous êtes vraiment énervé.
Non, mais à ce moment-là, tu casses le mur.
Et ce qu'il faut, c'est argumenter.
Poser la question.
Si tu dis, ouais, je vais les prendre, après je vais les vendre.
Bon. Alors, je continue.
Et si tu leur as dit que ça.
Et donc, il dit comme ça. On n'est pas sur texte, aujourd'hui on est sur... Donc dit Rambam, je vais vous lire dans les mots parce que c'est ma mâche très importante, ça me concerne tous les jours. Il dit, Vilamed atmo shelouir as afilua davar sharaou ilur osala. Il faut s'habituer à ne pas s'énerver, même sur les choses sur lesquelles on devrait s'énerver. Im ratsalatil emal banavlou neveto aussi, l'envie d'inspirer la crainte sur sa maison, ce qui peut être acceptable, c'est normal, ce qui est légitime. On dit qu'il faut inspirer la crainte à la maison. Il faut que le père, c'est quelqu'un qu'on respecte. D'accord? Dans O à la Tzibou, ou bien un rabbin qui veut faire son communauté, Imou Parnas, verra salir os à l'EM qui déchire zéro le moutav. Donc, à un certain moment, des fois, il faut lever le ton. Yar eatsmo bifnem shoukoes. Tu peux lever le ton seulement quand en vérité tu n'es pas énervé, mais tu vas leur faire croire que tu es énervé. Tu vas crier. Mais vetiye dato me yushevet beno le venatsmo. Mais dans ma tête, au fond de moi, je sais qu'en vérité je ne suis pas énervé et que je maîtrise à 100% ce que je suis en train de faire. Amrou Chachamim Arishonim, les premiers Chachamim ont dit, Kol HaKoes Keilu Oved Avoda Zara. Là, il ramène cette Gemara. Donc, Gemara qui a dit que celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avoda Zara. Ve Amrou, c'est encore plus dur ce qu'il va dire ici. Ça, c'est pas dans la Gemara, ça. Enfin, il se base sur la Gemara. Chez Kol HaKoes, tout celui qui s'énerve. Im Chacham Ou, s'il était intelligent, s'il était sage, Chochmato Mistaleket Yemenu. Sa sagesse s'envole. Où on a vu ça?
Pirkei Avot.
Et où on a vu ça dans l'histoire de la parasha la semaine dernière?
Moshe
Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha à cause de quoi? Je vais expliquer, parce qu'il s'est énervé. C'est ça que m'a attiré ça là. Veim Naviou, si c'est un prophète qui s'énerve, Nevoato Mistaleket Yumenu. Sa prophétie s'en va de chez lui. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas à cause de quelqu'un qui est nerveux. Quand t'es énervé, il faut rien dire, il faut te taire. C'est pas le moment où il faut parler. La lacha de la cacherisation des ustensiles. Ou ba ale kaas en chayem chayim. Ceux qui s'énervent, les gens coléreux, leur vie n'est pas une vie. Les fichar, c'est pour ça. Si vous, les hydrachek, mina kaas, atchean igatmo, shelou yargish, afilou lidvarim amach isim. Et tu dis, les rachamim nous ont ordonné. Ça, c'est très difficile, mais je le dis quand même. Et on peut s'habituer, ça marche des fois. Les rachamim nous ont ordonné de nous énerver, de nous éloigner de la colère. Et de s'habituer que rien nous énerve.
Ouais, c'est dur.
Alors, au début tu le fais pour les petites choses, et après progressivement tu rajoutes.
Ouais, mais même
d'accord
choses, c'est trop, ce qui est difficile, c'est le premier instant.
Exactement. Une fois que tu as décidé au premier instant que tu ne seras pas énervé, que tu ne vas pas crier, après tu maîtrises la situation. Et là tu peux réagir.
Ouais, bah, c'est vrai que sans CRL qu'on y arrive.
Il faut un plan B.
D'accord. Maintenant, il dit ici le Rambam, il dit comment ils font les tzadikim. Ça, c'est les tzadikim. Les tzadikim, ils disent, les tzadikim, ils se font insulter et ils répondent pas. D'accord. Ils entendent qu'on va parler du mal d'eux et ils répondent pas. Ils font tout ce qu'ils font, mais à Ava, par amour. ils sont heureux, ils sourient des épreuves que Kadosh Baruch Hu leur envoie. Mais ça, c'est les tzadikim. Ça, on demande pas à tout le monde d'être tzadikim. Ça, on demande pas à tout le monde. Par contre, ce qu'on demande à tout le monde, non. C'est-à-dire, on te dit pas que le tzadik, à la limite, c'est pratiquement comme il tend l'autre joue, quoi. C'est-à-dire, le tzadik, il est là.
Quoi, chez nous,
ça. C'est chez que pas chez nous, mais c'est ma vache comme ça. Non, 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 non. Le tzadik, tant qu'il n'y a pas de manque de respect envers un Kadosh Baruch Hu, envers la Torah, le tzadik, il peut être là à entendre qu'on se moque de lui et il dirait, il encaisse. D'accord ?
J'ai vu que ceux qui se retiennent, ils ont une force de bénédiction.
Bien sûr.
Non, mais vraiment, genre.
Bien sûr.
Ils sont insultés, qui se retiennent, ils ont une force.
C'est énorme comme. C'est écrit que quand il y a quelque chose, vous savez qu'un Kohen peut bénir. J'ai lu dans un Sefer, il disait, quand il y a quelqu'un qui a énervé un Kohen, et que le Kohen se retient de ne pas s'énerver, surtout que les Kohanim, ils sont très nerveux en général.
Oui. Ah oui.
C'est vrai, c'est écrit. Hein.
Ouais.
Les Kohanim sont nerveux, on le sait.
J'en ai même vu se battre dans une synagogue.
Alors c'est écrit, la Gemara a dit. La Gemara a dit. La Gemara a dit que c'est une nature que Kadosh Baruch Hu leur donnait d'être coléreux. Pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que dans le Beth Amigdal, il fallait être très rapide dans le service. Et les gens coléreux, c'est les gens qui sont très rapides, c'est les gens qui sont speed. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu leur a donné cette nature. Alors je suis en train de dire que.
Comme Yaakov qui est.
On parlait des.
Next.
Alors pourquoi je parlais de ça ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, je me suis. Attends.
Pour les Kohen.
Si tu énerves un Kohen.
Ah voilà, j'arrête de dire. Si tu énerves un Kohen. Imaginez-vous qu'il y a quelque chose qui énerve un Kohen. Et que le Kohen se retient. Au moment où le Kohen se retient, si tu viens lui demander une bracha, t'es pratiquement sûr que la bracha va s'accomplir.
Ah ouais. J'ai entendu ça pour tout le monde.
Particulièrement pour le Kohen. Parce que quand tu énerves une personne et que la personne se retient de ne pas s'énerver, à ce moment-là, il a un pouvoir de bénédiction extraordinaire.
Est-ce qu'on peut être la personne qui l'a énervé ?
Ils vont écouter, tu l'énerves, d'accord, à bloc.
Non mais
il faut que ça l'énerve.
Et tu lui dis, viens, c'est Mandy qui m'a dit.
T'as une chance sur deux.
Je connais une histoire avec un Cohen qui habite à Vincennes comme ça.
Je t'en prends ma chance.
Très nerveux. Et une fois, il y a quelqu'un comme ça qui l'a énervé. Il s'est retenu, il y en a un qui a profité de la situation. Ils n'avaient pas d'enfant depuis 15 ans, je crois. Il lui a donné une bracha pour avoir des enfants. Il lui a donné une bracha dans l'année, il a un enfant.
Ah ouais ?
Une vraie histoire, hein. Je connais le nom, ils sont encore tous en vie. C'est pas des blagues. C'est le pouvoir de bénédiction, surtout d'un Kohen.
Donne-moi les numéros du loto.
Ah ouais.
Une bracha. Une bracha.
Ah bah ouais. Une bracha, bah. Par l'achat,
voilà.
C'est pas forcément une bracha, hein. C'est pas une bracha tout le
temps. C'est.
Dans les numéros de l'auto, c'est pas une bracha, hein,
ah oui.
Je sais pas.
Non, mais d'un autre côté, ça peut être une clala aussi, hein, attention. Ouais. Ça peut être une malédiction aussi, faut faire attention.
Ah, quoi,
d'un coup,
oui. Ça me paraît quoi, mais...
Quand il y a une personne, ça assourde le faire.
C'est vrai.
Je me
faisais pas avec Alouvitch, il y a 20 ans, ça. Sur les gens qui gagnent au loto, et bien souvent, il y en a qui viennent fou.
Bien sûr.
Ça rend fou, c'est vraiment vrai.
Bien sûr,
on dit même que c'est une épreuve de gagner.
C'est une épreuve, c'est une épreuve.
On est vrai, c'est vrai. Mais en fait,
il y avait une fois une discussion entre le Admour de Sadigoura et le Rabbi, au 770. Et le Admour de Sadigoura. Sadigoura, c'est une racine qui s'appelle Sadigoura. Et le Admour de Sadigoura, il disait au Rabbi, il disait, Yeratson, que Dieu fasse. Que Akadosh Baruch Hu amène la richesse à tous les bnei Israël. Comme ça le rabbi disait.
Amen.
Alors l'admon de Sadigoura, il disait, oui, mais la richesse est une épreuve. Le rabbi disait, oui, mais quand même, qu'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, il y a eu un dialogue comme ça pendant 10 minutes. D'accord. Pas de sourds. Alors on dit, mais on sait comment la richesse est une épreuve, on a vu des gens. Le rabbi dit, oui, mais quand même, et l'épreuve de la pauvreté, c'est encore plus dur que l'épreuve de la richesse, alors on demande qu'Akadosh Baruch Hu.
Ouais, je suis partant pour la richesse quand même.
Hein. On le voit actuellement, hein. On le voit actuellement en Israël, hein.
Bien sûr. Exactement.
Une richesse modérée.
Donc, ce que te dit Rambam ici, c'est quoi ? Je finis avec ça. Qu'est-ce que te dit Rambam ici ? Il te dit que la colère, il faut s'énerver au maximum de la colère. De la colère. Ça veut dire que même quand c'est des situations dans lesquelles, a priori, il faut s'énerver, pour montrer un exemple, pour imposer une autorité, il faut le faire seulement quand en vérité on n'est pas énervé. Quand en vérité je suis calme. Pour ça, les gens quotidiens disent « Non, mais attends, laisse-moi, je suis calme. »
Bon, si elle ne fait pas une bonne taf samedi prochain, tu peux
dire « Ça, c'est le nid. Donc avec ça, maintenant, je vais revenir maintenant à ce que l'Admor Hazakan a expliqué, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, on a écouté Dibourim. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken a expliqué? Il a dit que quand la Gemara te parle de la colère, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas que la colère. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit Rambam? Pourquoi je vous ai montré ce Rambam? Parce que Rambam nous a montré ici qu'en vérité, nous on parle à chaque fois que de la colère et de l'humilité, mais il t'a expliqué qu'en vérité c'est un concept de l'homme. On retrouve ça dans les maladies physiques, et on retrouve ça dans les maladies de l'âme. Et qu'en vérité c'est toujours le même concept. Que faut aller ni trop à droite, ni trop à gauche, faut toujours aller au milieu, sauf pour la colère.
Mais ça n'a pas marché pour Bayrou. Hein.
Sauf pour la colère, ce qu'on a dit. Et donc avec ça maintenant je vais expliquer ce qu'a dit l'Admor HaZaken. Qu'est-ce qu'a dit l'Admor HaZaken là-bas dans ce commentaire? Qu'est-ce qu'il a dit? Je finis avec ça. Il a dit qu'on doit savoir que quand la Gemara nous dit que celui qui s'énerve, c'est comme si il fait Avodah Zara, on parle pas forcément d'une personne qui s'énerve, qui va crier. C'est quoi la colère? La colère, c'est laisser le cœur avoir le dessus sur la raison. Donc dit l'Admor HaZaken, une personne qui décide délibérément, il dit... Moi, je vais étudier que, je sais pas moi, que de la Gemara ou que des textes. Enfin, en tout cas, je ne chercherai pas à me travailler sur ma personne. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens comme ça, parce qu'on comprend que ça mène nulle part. Ça peut arriver des gens comme ça. Un qui dit, moi, je ne travaille pas sur ma personne. Je n'ai pas envie de me travailler sur ma personne. Moi, je suis comme je suis. J'utilise ce que je veux parce que c'est intéressant et c'est tout. Mais te dit l'Admor HaZaken, une personne comme ça, une personne qui est comme ça, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Kol mine geinam sholtinbo. Sa vie devient un geinam. C'est-à-dire quoi, sa vie devient un geinam, explique l'Admor HaZaken. C'est-à-dire que progressivement, qui c'est qui prend le contrôle de son corps, on a dit? C'est le mal, c'est le tard. Et automatiquement, on a dit à tel point que même quand il trouve des chidushim, est-ce que c'est des vrais chidushim, on a dit? Non, c'est pas des chidushim, c'est des bêtises qu'il fait. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'une personne ne veut pas travailler sur ses midot. Ça veut dire que vous comprenez que quand on passe du temps pour chercher à se travailler sur nos midot, même si on n'a pas le temps d'étudier beaucoup de Torah, on est déjà sur la bonne voie.
Mais c'est l'une des premières midotes à travailler apparemment. C'est celle qui permet d'apaiser le reste.
La colère? Oui. Parce que ça, le Harizal, il dit, la particularité de la colère qu'il y a par rapport aux autres Averot,
aux autres midotes,
c'est que dans les autres midotes, c'est des midotes qui concernent seulement un membre spécifique du corps.
Mm-hmm. Alors que là, il prend
tout. Alors que la colère, explique le Harizal, ça te prend tout l'homme. Une personne qui est coléreux, on le voit d'ailleurs, une personne qui est coléreux, c'est pas seulement sa tête qui est touchée, ses mains qui sont touchées, ses pieds qui sont touchés. On voit que c'est tout son corps qui tient plus en place. On le voit, on sent que la colère, ça prend une personne, il est hanté par la colère. Alors contrairement aux autres midotes, dans lesquelles, c'est pas forcément, par exemple, une personne qui a un problème qui est radin. La radinerie, ça touche pas les pieds, ça touche pas les mains, ça touche la tête. On est d'accord? La radinerie, ça touche certaines choses, ça touche pas tout. Mais la colère, une personne qui est coléreuse, c'est tout son corps qui tient plus, c'est tout son corps qui explose. L'orgueil, c'est comme ça aussi. L'orgueil qui amène à la colère, c'est comme ça aussi. Une personne qui est orgueilleuse, quand un truc qui lui plaît pas, c'est tout son corps qui... Pourquoi? Comment ça se fait? Parce que le Harizal t'explique, il te dit, parce que la colère, contrairement aux autres midot, c'est une mida qui attrape tout le corps de l'homme. Le Harizal, il dit comme ça, dans ces mots-là, mamache, il dit qu'une personne qui s'énerve, au moment où il s'énerve, le Yetzer Hara prend le contrôle de son corps.
Ah, mais comment on peut dire que la colère, c'est une mida? C'est un défaut, c'est pas une qualité.
Mida, ça veut dire un trait de caractère. Mida, ça veut dire un trait de caractère. Ouais. Mida, c'est une
mida. On a des bonnes midotes
et de mauvaises midotes.
Et l'angoisse aussi, c'est pareil.
L'angoisse?
C'est pareil, ça.
Non, c'est pas comme la colère.
L'angoisse est générée par quelque chose.
C'est généré par quelque chose. L'angoisse, on peut pas dire. Est-ce que quand t'es angoissé, par exemple, ça affecte ta main? Ça affecte tes pieds? Non.
Tu peux t'angoisser?
Non, t'es pas bien.
Non, tu peux t'angoisser, mais tu peux garder tes facultés.
Tu peux garder tes facultés.
Voilà, non. Justement,
si. Regarde.
Mais non, l'angoisse, ça peut faire tout.
Une personne qui est angoissée,
qui
amène la colère, qui t'amène la colère, pour laquelle tu es coléreux. Une personne qui est angoissée, par exemple, il peut continuer à dessiner, il peut continuer à conduire, il peut continuer à faire beaucoup de choses. Mais une personne qui est coléreux, alors c'est une angoisse qui amène la colère. Mais une personne qui est coléreux, même conduire, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à conduire normalement parce que tout son corps est hanté par la colère.
Et la dépression, alors.
D'accord? C'est la même chose.
La dépression, c'est pas la colère.
Non. C'est maladie, ça. Bon, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, dès que tu as quelque chose qui fait que le cœur prend le dessus sur la raison, en fait, c'est fini. Donc, explique l'Admor HaZaken, on parle pas seulement de la colère à strictement parler, on parle de même d'une personne qui ne veut pas travailler pour que son cœur prenne le dessus sur sa raison. Une personne comme ça, progressivement, il va tomber jusqu'à la catastrophe à Shemishma. Quand on lit ça, hein, on comprend hein, que c'est très important de passer du temps pour structurer ces midot.
Bon, comment faire alors?
Hein? Voilà, c'est pour ça qu'on vient
retenir. On a dit, voilà.
Ouais.
Samedi, on a
comment
dit.
T'as quatre moyens.
Comment
si on avait la solution.
T'as quatre moyens.
Non, comment faire pourquoi? Attends,
pour pas être colère.
Non, ce qu'on disait, que c'est la raison d'emporter ton cœur.
Non, non.
Les méthodes, tu les as.
Et tu poses une question par rapport à la colère à strictement par, à proprement
non,
parler
ou
à la,
ou de manière générale au cœur et la raison, il a dit. Quelqu'un qui a des, qui est plus coléreux, c'est sa nature, il est coléreux. Il répond quelque part.
On l'a dit, on avait expliqué
ça. Elle est à l'extrême
non,
de l'autre côté.
Non, non, le rabbi donne plusieurs techniques. Il dit comme ça.
Il y en a quatre.
D'abord, il faut essayer d'aller à l'autre extrême. Mais c'est très difficile. Des fois, il n'arrive pas. Parce que des fois, quand ça t'énerve, tu ne maîtrises plus. Après, tu regrettes. Mais après, quand ça t'énerve, au moment où ça t'énerve, tu ne maîtrises plus. Il y a plusieurs techniques. Première technique, c'est d'essayer d'abord de faire un Ahavat Israël avec la personne qui t'énerve. Non, pas au moment qui t'énerve. Au moment qui t'énerve, tu vas exploser. Ça y est, tu vas exploser. Mais dans d'autres moments, là, essaye de chercher. Essaye de chercher des moments de Ahavat Israël.
C'est un juif, ça va, mais
attends,
c'est pas un juif.
Je continue, je continue. Tu expliques encore une autre technique qu'on avait expliqué à Shabbat. Une autre technique quand une personne s'énerve, c'est quoi? Quand tu es énervé, faut pas parler. Parce que la parole, c'est le combustible. C'est le carburant. On a dit ça, Shabbat. Quand on est énervé, on dit rien, faut parler. Quand on est énervé aussi, elle a donné une autre technique aussi, le rabbi. Quand tu es énervé, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es énervé, non, ça te fait un tour, ça c'est
tu pour. Tu fais un break.
Tu fais un tour, c'est pour ne pas parler.
Une clope.
Quand tu es énervé, te dit le rabbi,
ne réagis
il
pas.
Faut après venir s'excuser.
S'excuser.
Et s'excuser de manière explicite, pas implicite. Dire je suis désolé d'avoir fait ça et ça.
Avoir mal agi.
On sait que pour une personne, surtout
mais,
pour un homme.
Mais on est énervé parce qu'on est la cible. Alors, on n'est pas forcément le.
J'ai compris.
Pas l'origine. Tu viens t'excuser de quelqu'un qui t'a énervé.
Non,
qui t'a
si tu t'es énervé et que tu as manqué de respect à quelqu'un. Si tu t'énerves et que tu as manqué de respect à quelqu'un.
Ah, c'est toi qui t'énerves. Mais si la personne t'énerve.
Alors, si tu t'énerves, dans ce cas-là, il faut réduire les mots. Tu verras, tu peux faire un essai. Quand une chose t'énerve, si tu n'exprimes pas ça dans des mots, quelques minutes plus tard, ça va se calmer. Ça va continuer à te déranger.
Ah ouais, ça,
mais la colère sera passée.
Ça continue à bouillir. Hein.
Mais non, ça va continuer à bouger. Quand il peut me faire ça, il va voir celui-là. Attends,
je vais le prendre comme... après, je vais me traha.
Hein
j'ai, moi, je suis tempérament nerveux, mais depuis gamin, j'essaie de travailler sur l'énervement. En général, maintenant, je rêve plus que c'est les autres qui s'énervent. Et moi, je essaie de rester calme.
Ouais.
J'énerve les autres, quoi.
Ah non,
non c'est
celui qui énerve les autres, c'est ce qu'il dit.
Bon, on va pas le fréquenter, il énerve tout le monde.
Alors non, parce que le rabbi dit, comme je sais que quand je m'énerve, je vais manquer de respect, et que après je sais que je devrais demander pardon, pour un homme, demander pardon, c'est très difficile. Donc quand au moment où je m'énerve, je me dis, je devrais demander pardon, ça peut me calmer. Mais c'est vrai, il a raison Yves, que des fois, c'est pas... on m'énerve, j'ai rien fait moi.
Non, mais...
Je suis là tranquille chez moi à la maison, on m'énerve, qu'est-ce
que
tu veux.
Mais quand tu dis que tu es capable de te taire.
Non, c'est faux, pas du tout. C'est faux.
Si tu te contiens, pas tu fais un massacre, ça va pas là.
Non, mais...
Tant que tu n'exprimes pas dans des
après,
mots.
Tu vas dans une salle de cinéma et tu.
Je connaissais pas l'histoire une fois. Hein. Une fois, il y a un rabbin qui est venu dans une auberge et il a vu l'homme et la femme, l'aubergiste et l'aubergiste, enfin, donc les deux, ils arrêtaient pas de s'insulter. Il a vu ça, il a dit, c'est pas possible, faut qu'on fasse quelque chose. Alors il les a rassemblés, il leur a dit, écoutez, j'ai un truc, un conseil à vous demander. Au lieu de vous insulter, la prochaine fois qu'on vous énerve l'un sur l'autre, dites-vous des mots d'amour. Voilà, juste, tu t'énerves, tu cries et tout, mais au lieu de dire, espèce d'imbécile, tu dis, ma chérie, etc., tu te mets à dire des mots d'amour. Mais c'est tout,
ça.
C'est pas mal, c'est sympa ça. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc effectivement les gens.
En général, quand on entend les gens souvent des couples, l'un dire beaucoup de gentillesse à l'autre, c'est voilà, méfie-toi, c'est qu'à l'intérieur, ça va exploser.
Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ils ont fait comme ça pendant plusieurs jours. Et après un jour, le mari il a vraiment énervé la femme. D'accord? Alors, il se met à crier, mais des mots d'amour, attention. Mon chéri, mon amour, mon mari chéri, etc. Et les invités, ils sont là, ils regardent, ils disent, waouh, ils s'adorent à la folie, ceux-là. Et à un moment, le mari, il craque, il décolle une droite à la fin. Ma chérie.
Voilà, tu l'as cherché, tu l'as eu.
C'est quoi ça?
C'est une caresse.
D'accord. Ah, c'est une caresse énergique.
Ouais, très énergique. L'amour, il y a de la rage.
En tout cas, voilà, ce que je veux dire ici, c'est qu'on doit savoir que pour calmer la colère, il faut toujours tenir ça dans des mots. D'accord, il faut toujours, pardon, ne pas exprimer ça dans des mots. Et savoir que si on se laisse aller dans le trip de la colère, ça détruit le corps. Et comme ça expliqué l'Admor HaZaken, c'est pas seulement la colère à proprement parler, c'est même la colère, ça veut dire laisser le cœur avoir le dessus sur la raison. Quand on laisse une chose comme ça, automatiquement après, à chemin, on descend de niveau en niveau, exactement comme une maladie du corps. Et si on n'arrête pas la maladie à temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va descendre, à chaque
mais il y a deux choses.
Oui.
Il y a déjà le fait de ne pas
réagir,
oui.
Ça peut déstabiliser l'autre.
Oui, c'est ça donne l'énerver davantage.
Tu n'attends pas à ce que tu exprimes, tu n'exprimes pas. Mais il y a aussi un autre problème. Enfin, c'est pour ça que je voudrais plus de clarification.
Ça donne l'énerver davantage.
C'est qu'intérioriser une colère, c'est pas bon.
Ah oui.
Non, c'est pas bon. Ça, il dit ici, le Rambam, il dit, il faut pas y penser.
Ah ouais, mais se vider la tête de ça, c'est
non, mais,
c'est
pas mais ça veut pas dire. Que, ça veut pas dire
c'est un conseil. C'est un conseil. Là, tout ce qu'on a entendu depuis le début, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Mais parfois. Avec la nature qu'on peut avoir,
c'est le travail.
Ça se travaille.
Mais ça ne veut pas dire que tu intériorises. Ça ne veut pas dire que tu intériorises un instant. C'est-à-dire que tu as pris truc sur toi. Peut-être après, tu vas l'exprimer ou le faire. Maintenant, tu peux libérer aussi ta colère en gardant un ton.
Tu sais, Dan, on a pas dit.
Tu peux très bien libérer ta colère, au contraire, en étant très.
Dan, on n'a pas dit qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui t'a blessé. On n'a pas dit ça. J'ai pas dit qu'une personne qui t'a blessé, tu dis rien. J'ai pas dit ça. C'est les tzadikim, ça. J'ai dit de pas réagir au moment où tu as la colère.
Mais après,
une fois que la première fois tu t'es calmé, une fois que tu sens que tu maîtrises la situation, là tu vas dire ce que tu veux dire.
Elle s'emporte un peu avec votre femme ou autre, ou vous. Testez ou
rien. Dis rien.
Si tu veux dire ton lit,
ça marche. Mais tu veux tester, ça marche.
Tu t'es d'ailleurs.
D'accord. Non, même pas ça.
Ça va être enragé. Le prends pas mal.
Pourquoi tu t'es d'ailleurs? Détends-toi, relâche.
Ouais, tu t'écoutes. Ah bon?
Tu bouges pas, tu
rages. Il faut pas parler.
Non, mais là,
en général, tu remets encore un coup de.
Mais là, c'est la pression monte encore.
Quoi?
Ne crie pas!
Et quand tu dis rien.
Là, tu te mets à rire.
T'as oublié le quatrième, devant le roi.
Oui, c'est imaginer qu'on est devant un roi aussi. Et que devant un roi, ça ne serait pas énervé.
Bon,
mais là, ce que je voulais montrer dans ça, c'est que c'est l'importance que la Gemara Zaken dit qu'il faut prendre du temps pour penser à ses midot. C'est ce qu'on fait ici, au Racham, au cours de Tania. Quand on le fait, c'est un petit peu comme le moustique qui est en train de se battre. Que même si on n'a pas gagné, que même si on se bat toujours sur les mêmes choses, tant qu'on se bat, ça marche.
En somme, on est en train de nous dire que la solution est en nous. Parce que tu peux avoir besoin de l'aide de quelqu'un ou quoi que ce soit, finalement, la solution...
Il faut toujours chercher à se battre. Celui qui décide, ça y est, mon cœur aura le dessus sur ma raison, et je suis comme je suis, et tant pis, c'est la catastrophe. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire, je suis comme ça, c'est tout. Quand il faut dire, je vais faire des efforts et essayer de faire des efforts.
Bon, de temps en temps, on peut déraper, ça va.
Non, j'ai pas dit qu'on dérape pas. Il a pas dit ça.
À la Bayrou.
Vite.
Tu veux déraper, tu prends un petit whisky.
Tu sais, David, quand t'as quelque chose qui t'énerve, pour répondre à ta question, quand t'as quelque chose qui t'énerve, si tu réagis au moment où tu es énervé, tu sais ce qui va se passer? Tu vas t'emporter.
C'est foutu.
D'accord? Non, je vais t'expliquer. Tu vas dire des choses que tu voulais pas dire. Et après, tu vas aller pour t'excuser. Et quand tu vas t'excuser, du coup, t'as tout enlevé. Parce que l'autre, il va avoir la main dessus, il va dire ah, il s'est excusé. Donc du coup, t'as rien obtenu.
Tu vas te sentir humilié après.
Tu comprends? C'est-à-dire, t'auras tout perdu. Et tu t'es humilié. Et t'es venu t'excuser. Donc l'autre, il dit bah ça, il s'est excusé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'a dérangé. Alors que quand tu t'énerves pas, tu attends que la colère passe. Et après tu fais la remarque de manière posée, de manière réfléchie. Quand tu sens que tu maîtrises, là, dans ce cas-là, la remarque, elle passe. T'as pas besoin de t'excuser, t'as dit ce que tu devais dire.
Oui. Ça, c'est dans la théorie.
Ça veut dire que tu causes pas du tort à l'autre. Tu causes du tort à toi-même en t'énervant.
Non, c'est dur.
Si tu l'anesthésies, ça passe.
Hein. Tu l'anesthésies, c'est une clope. Deux clopes.
Alors, Shabbat, bon. Pour anesthésier.
Encore des questions?
C'est un peu dur.
On va essayer de mettre en pratique.
On va essayer de mettre en pratique, voilà. Ouais, donc, j'ai voulu ce cours-là.
Shabbat, c'est bon, hein, c'est un problème, c'est zen.
J'ai voulu ce cours, voilà. J'ai voulu ne pas faire sur le texte, j'ai voulu faire un petit topo sur le sujet de la colère. Comme ça, avec ça, on finit le sujet de la colère. D'accord?
J'espère que j'ai bien compris.
Est-ce que la semaine prochaine vous êtes là? Qui est là la semaine prochaine?
Je suis encore là.
Encore là?
Ah oui, je suis encore là.
Alors la semaine prochaine on fera le dernier cours si Dieu veut. Je sais pas encore sur quoi.
Sur la rage.
Sur la rage. Sur l'amour.
Sur comment tuer le maximum d'arabes.
Non, c'est ce sont tous des créatures d'Hachem. Attention de ne pas dire de bêtises.
Les cafards aussi, hein.
Si, il donne un conseil, le conseil qu'il donne au Rambam. Il donne le conseil, il dit de s'habituer à ne pas parler pour rien dire.
Je n'ai pas entendu M. Berger ce qu'il vient de dire.
Il dit que le Rambam donne un conseil pour ne pas s'énerver, de s'habituer à ne pas parler pour rien dire. Et quand on s'habitue à ça, automatiquement...
Être économe de ça.
Quand? Très économe.
Ce week-end, ils ont eu 1251 victimes.
Où c'est?
En Syrie,
ah, oui.
La personne fait un, c'est bon. Ils ont eu un mort en Palestine, ils ont fait un
transfert. Après, on a tourné ça à Londres, donc ça peut
être un mort, là. En un week-end.
Je pense que ça joue à Angèle.
Razak Serge. On a un coup de main, on met ça au frigo.
On s'est pas réjoui en sortant d'Egypte, c'est pas maintenant qu'on va se réjouir.
Non, mais.
On a un week-end.
Non, mais. Assad, il est en train de négocier sa sortie.
Bon, je repose ma question. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la rentrée? Vous voulez qu'on continue
un poker,
les lettres?
On commence.
Il y a de moi à Zaken ou on commence?
Ne parle pas pour rien dire. Hein? Après, ça. Non, ça
on n'a pas fini encore.
Ça peut te tenter,
je
sais.
Ah ben moi, je suis partant.
On va reprendre ce qu'on a déjà, mais ça sert à rien.
Ce que le rabbin a dit,
non,
moi,
le début. Tout début.
Ah, par rapport au Benoni, c'est bien Talmud.
Ouais.
Ah, c'est pas mal ça.
Bon, on fera encore quelques lettres, mais je pense que bah non, dans quelques mois, d'ici quelques mois, on reviendra, on recommencera le Tania.
Allez, c'est propre.
Et là, on va le comprendre différemment.
J'ai pas compris.
Moi, je suis arrivé à
non, pas encore. Non.